On a tendance, peu importe qui on est, à avoir une vie que j'appelle la vie par défaut. Donc c'est la somme des choses qu'on pense, qu'on fait et qu'on a. Et du coup, la majorité des gens sont dans une situation qu'ils n'ont pas vraiment choisi entièrement, majoritairement. Je m'étais rendu compte à Paris que la bière, c'est un truc automatique. C'est, je voyais des gens tout le temps. Tous les jours, tu prends une bière. Tu bois tous les jours, donc c'est quand même particulier. Quand même, tu vois, ça a l'air normal, mais ça l'est pas, je pense. Et du coup, j'ai arrêté la bière. Ça m'a fait perdre 3 à 6 mois. Mon éditeur que j'ai aujourd'hui, Erol, il a même refusé mon première proposition de livre, alors que ça fait des années qu'ils me suivent et que c'était censé être une formalité, il m'avait dit. Tu vois, par exemple, là c'est hyper intéressant pour moi, là je suis à Paris, je venais aussi au-delà du livre pour voir c'était quoi mon rapport à Paris, ce genre de ville, est-ce que j'ai envie d'y vivre sur le long terme, en tout cas actuellement, et là je vois que c'est peut-être pas le cas. Alors c'est trop bien, par contre le poker, ça te rend humble, parce que le lendemain tu rejoues le même tournoi, t'es éliminé au bout de, je t'ai éliminé au bout de 30 minutes, et là t'es derrière ton ordi, tu dis, ah bah ça sera pas tous les jours la fête en fait. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu fais de ces crises, de ces moments qui sont des carrefours, j'appelle ça comme des carrefours de vie.
Bienvenue sur REC, le podcast des créateurs de contenu. Cet épisode, il est un petit peu spécial parce qu'il marque le début de la deuxième saison du podcast. Vous avez été super nombreux à écouter des épisodes avec des créateurs comme Antoine Raca, Ulysse Lubin, Victor Apchi ou Lorraine de Cook & Record. Et dans cette saison 2, je prévois du lourd. L'objectif, c'est de continuer d'aller à la rencontre de vos créateurs préférés, de découvrir les coulisses de leur quotidien, d'écouter leurs histoires et d'apprendre de leurs conseils. Mais en plus, je vais vous emmener avec moi à la rencontre des acteurs de ce qu'on appelle la créateur économie. On ira ensemble à la rencontre des monteurs vidéo des plus gros youtubeurs, mais aussi dans les coulisses des réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou Facebook. Et on pourra discuter avec les managers de tes créateurs préférés. Pour l'épisode 1, je voulais commencer avec un sujet qui me préoccupe pas mal en ce moment, surtout avec la fin de l'année qui approche avec son lot de nouvelles résolutions et d'introspection. Ça m'arrive souvent d'avoir l'impression d'être pris dans une routine, avec d'un côté mon travail, la création de mes vidéos et la gestion de mes clients, et de l'autre côté mon train-train quotidien, avec la salle de sport, les sorties avec les copains et les soirées chill. Le problème, c'est que parfois j'ai l'impression de subir ce quotidien qui passe. En fait, j'ai l'impression que le temps passe et que je passe avec lui, sans pouvoir le contrôler, sans vraiment avoir le choix. Quand on est créateur, ce sentiment peut être d'autant plus présent, parce qu'on a cette pression constante de sortir de nouvelles vidéos et on a cette peur de tomber dans les oubliettes des algos ou alors de devenir obsolète. Dans cet épisode, j'accueille Jean-Charles Curdali, qui va nous partager sa philosophie de vie qui résonne particulièrement avec ce que je viens de t'évoquer. JCK, pour les intimes, a déjà eu plein de casquettes différentes. Il a d'abord été joueur de poker pro, ensuite il a créé sa start-up qu'il a revendue, et aujourd'hui il coach des entrepreneurs pour les aider à développer leur activité. Mais surtout, il partage dans sa newsletter, qui est lue par des dizaines de milliers de personnes chaque mois, des idées au croisement de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la philosophie. Et il vient tout juste de sortir un livre qui s'appelle Vie intentionnelle. C'est une sorte de manuel que j'ai lu pour essayer de reprendre le contrôle de ma vie. Bref, je t'en dis pas plus, bonne écoute.
C'est quoi ton lifestyle? Tu fais quoi de tes journées?
Je fais quoi de mes journées? Je lis. Quand je me lève assez tôt, en ce moment, c'est un peu dur avec le bouquin. Mais idéalement, je lis genre une heure, tu vois. Faut que j'écrive. Une à trois heures, c'est une bonne journée. Avoir une bonne conversation, là on en a une tous les deux, donc c'est top. Faire du sport une heure au moins. Enfin, 30 minutes minimum, disons plutôt une heure idéalement.
Okay.
Donc hier, par exemple, je te disais, j'étais allé faire un running dans Paris, c'était top. Et apprendre des choses nouvelles. T'as envie de me dire à la fin de la journée, j'ai appris un truc. Quoi.
Mais du coup, il est 14h et t'as pas encore travaillé.
Il est 14h. Si, supposons.
Ouais. Ouais, supposons, parce que là, tu me dis, je me réveille, j'apprends des trucs. Je
lis, non, c'est pas dans l'ordre que je le fais, c'est ce qui va constituer une bonne journée.
Ok, d'accord. Mais dans l'ordre, tu fais quoi?
Dans l'ordre. Bah, en ce moment, je suis à Paris, donc je me rends compte que c'est difficile à Paris pour l'instant, en tout cas, par rapport à mon bouquin qui sort, de tenir le même rythme. Mais quand j'étais à l'étranger, en gros, je me levais vers 6h30, 7h. Donc, en fait, quand on parle de sa journée, il vaut mieux parler de la fin de journée, plutôt. Parce que c'est la fin de journée qui détermine le début de la suivante.
Okay.
Donc, j'essayais de me coucher, ça fait des années que j'essaye, vers 22h30. Ça, c'était déjà un objectif, j'arrivais pas avant, j'étais comme un mec qui se couchait plutôt vers minuit, okay. Voire beaucoup plus tard avant quand j'étais joueur de poker. Donc je passais de 18 ans à 3-4 heures du matin à maintenant 22h30 à 32 ans. Et surtout, j'essaye maintenant de quasiment plus boire d'alcool parce que je sais que ça me flingue, même ne serait-ce qu'un verre de vin, ça me flingue le sommeil.
Okay.
Et ça joue sur ma concentration, ma qualité de deep work le lendemain matin, d'écriture du coup. Donc je sais que si je bois, je dois accepter soit de moins écrire, soit de moins travailler en tout cas le lendemain.
Okay.
Et même un verre, tu vois, j'essaie d'être radical la semaine, je peux boire, mais ça veut dire que j'accepte que le lendemain sera moins performant, quoi.
Même un verre, tu vois la diff.
Ouais, je vois la diff. Bah, je traquais un moment sur Whoop. Okay. C'est des bracelets. Alors c'est plus connu, son concurrent Oura Ring.
Ouais.
Mais du coup j'ai vu avec le sommeil, il prenait cher.
Donc quand tu prends un verre, tu vois ton score de sommeil qui perd 8 points, par exemple.
20-30%.
20-30%.
Ouais.
Sur un verre même d'alcool non fort, quoi.
Ouais, ouais.
Ah, c'est incroyable.
Ouais, c'est ouf.
Et t'es du genre à tout traquer dans ta vie ou... okay. Et la santé, non? Les sujets sur la
J'aimerais
santé.
Bien plus la traquer.
Okay.
Je vois beaucoup en ce moment les... y a qui que je vois faire ça? Là, j'ai vu Alec Henry. Bah, les mecs de Dubaï, un peu, c'est marrant d'ailleurs.
Ouais.
Alec Henry et Yomi,
ouais.
qui en parlent pas mal. J'ai des potes aussi qui ont commencé à faire des checks globaux de leur santé. Et je pense que c'est un luxe qui devrait pas en être un. C'est de, il faudrait qu'on traque régulièrement notre santé parce que tu. Autant, tu vois, je suis pas du tout dans le délire transhumaniste ou de me dire je pense qu'on peut vivre 200 ans, on va dire de manière organique, enfin. Biologique. Par contre, c'est vrai que je pense qu'on peut facilement vivre 90, 100 ans si on limite les. En tout cas, si on n'a pas de grosse merde ou un accident qui nous arrive.
Ouais.
Il y a pas mal de maladies qu'on peut anticiper. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment ce que je me posais la question avant-hier. Je me disais, ça serait con, en fait, d'avoir la connaissance. Je me dis souvent ça, dans plusieurs sujets, avoir la connaissance que c'est possible de se faire checker. Ça coûte pas si cher que ça par rapport à ce que ça rapporte et à l'inverse, ce que ça coûte si t'as une merde qui t'arrive.
Mmh.
Et donc ouais, je pense que c'est important de se faire checker. Et encore plus quand tu commences à avoir les moyens, je pense que c'est presque une obligation.
Ouais.
C'est parce que c'est con, mais quand tu as les moyens, bah t'as la connaissance qui arrive aussi, t'as le réseau, donc t'es au fait de ça. Et c'est ce qui aidera à démocratiser le truc aussi. Parce que plus il y a de gens riches qui vont le faire, bah le plus. C'est comme les Tesla, plus il y a de gens qui achètent des Tesla, plus il y a de chances qu'un jour la Tesla ne coûte pas grand chose.
C'est marrant que tu dises ça parce que hier, j'ai fait un full check-up.
Ok.
Et tu peux, via l'assurance maladie, le faire une fois par an en France, gratuitement.
Ok. Okay.
Et donc ils te testent, moi ils m'ont fait un ECG, donc un électrocardiogramme pour voir le fonctionnement de mon cœur,
ouais.
prise de sang sur le cholestérol, le fonctionnement des reins, etc. Auscultation complète du médecin. Tu peux aussi avoir un examen de la vue et des dents.
Ah, et c'est pas mal.
Je pense que c'est méconnu,
mm-hmm.
ça reste assez superficiel quand même en termes d'examen.
Mais tu peux faire, bah, je sais que les mecs de Dubaï qui en parlaient, comment il s'appelle, Yomi Denzel, il va beaucoup plus loin je pense dans ses tests. Mais c'est déjà super bien déjà qu'il y a ça. Quoi.
Ouais.
Et ça... 99% des gens, ils savent pas.
Ouais, et juste en le faisant, je pense déjà, c'est pas mal. Et justement, c'était Yomi, dans un de ses podcasts, il disait que lui, il faisait un test d'intolérance alimentaire, des tests de génétique pour détecter des cancers, etc. Et j'ai demandé, moi, au médecin, je lui ai dit, est-ce que je peux faire juste l'intolérance alimentaire? Et elle avait pas l'air très chaude, tu vois. Elle m'a dit, non, oui, c'est pas nécessaire.
Ouais, bah, je vois dans quel podcast, épisode tu parles. Et c'est intéressant, ça montre que on voit encore la science comme quelque chose de pas de préventif, à l'inverse, de a posteriori, j'ai pas le terme technique là, mais et que
de
si tu veux faire de palliatif,
ouais,
et que tu veux faire vraiment de la prévention sur des choses qui sont improbables, et ben ils sont pas prêts à investir de l'argent là-dessus, ce qu'on peut comprendre aussi, parce que si c'est du public, c'est peut-être que voilà, si tout le monde ferait ça, ça serait peut-être un souci au niveau de la caisse, la sécu, tout ça. Mais toi, en tant qu'individu, ouais, t'as tout intérêt à pousser, ouais.
Surtout que ça leur coûterait potentiellement moins cher, je pense. Je serais curieux d'avoir vraiment le ratio mathématique de l'argent investi sur du dépistage, par exemple, versus tous les traitements, tout ce que ça coûte, tu vois, de guérir un cancer une fois que tu l'as chopé.
Après, il y a d'autres industries derrière qui ont intérêt à ce que tu sois malade aussi. Donc, c'est pas si simple que ça. Ouais.
Clairement. Mais dis-moi, là, on est parti dans le vif du sujet, mais juste, comment est-ce que tu te présentes si tu rencontres quelqu'un dans un bar
Bah, tu m'as demandé, là, tu m'as dit qu'est-ce que je fais de ma journée.
Ouais.
J'ai même pas fini, mais on est parti.
Ouais, continue.
Mais c'est une bonne manière de se présenter, je trouve. Parce que moi, c'est une question que je pose souvent à mes potes. En fait, je suis assez fasciné par comment les gens vivent leur vie. Ça m'intéresse plus parce que ce qu'ils font d'un point de vue métier. Le métier, je m'en fous un petit peu, en fait. Enfin, je l'exagère, mais en tout cas, ça m'intéresse plus savoir qu'est-ce que tu m'as demandé. Quand tu te lèves, tu fais quoi? C'est quoi tes routines?
Ok, bon, on continue.
Comment tu vis tes journées? Parce que ça dit beaucoup plus sur la personne, au final. Toi, si je te dis entrepreneur, par exemple, ça veut rien dire, entrepreneur, en réalité.
Ouais.
Donc on n'apprend pas grand chose sur moi si je te dis ça.
Ok, donc une fois que tu as une bonne nuit de sommeil, que tu sais que tu vas te réveiller plus ou moins tôt et que tu vas pouvoir écrire et être productif, qu'est-ce qui se passe?
On essaye de se lever à l'heure qui était définie. Donc
tu mets un réveil ou pas?
J'ai encore un réveil. Alors c'est vrai parce qu'on côtoie Ulysse Lubin, toi et moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs dans le sud.
Bisous Ulysse.
Et ouais, la bise Ulysse. Et lui, je sais qu'il met pas de réveil. Moi, j'ai pas encore. C'est encore mes habitudes d'avoir le réveil. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'enlève, je pense, parce que ça coupe ton sommeil quand même, et au final, je pense qu'une fois que t'es réglé, t'as plus besoin rapidement du réveil. Mais pour autant, j'en ai un. Donc vers 6h30, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est le plus vite possible, c'est d'aller un petit peu marcher. Mm-hmm. Ça, je suis un peu dans la hype Huberman. En ce moment, tout le monde a pris un peu ses routines, là, pas de caféine 90 minutes après, là, enfin, les premières 90 premières minutes après le réveil, ce genre de choses. Le fait d'aller prendre le soleil très vite, ou tout le moins la lumière. Donc ça, j'ai commencé à le mettre en place. Et j'adore, en plus, au-delà de ça, l'ambiance du matin, peu importe où t'es. Je trouve qu'il y a une atmosphère que tu retrouves pas au moment de la journée. Une fraîcheur de l'air. Enfin, il y a des, sans que tu te les cailles non plus, mais idéalement, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup le matin. Très tôt. Le fait qu'il y ait personne aussi dans les rues, peu importe où tu es. Donc là, c'est très agréable. Et donc, je vais marcher. Je reviens chez moi. Idéalement, j'ai une session de lecture. Donc là, ça va durer entre 30 minutes et 1 heure le matin. En ce moment, j'ai rajouté le journaling. Donc, j'écris pendant 10, 15, 20 minutes dans un carnet. Là, j'ai repris l'écriture manuscrite parce que je voulais, comme j'avais des bouquins à signer et que j'écris très mal, je m'étais dit, il faut que je réapprenne à écrire. Je me suis racheté des carnets. J'écris plus sur mon ordi le matin. Enfin, du moins sur cette session. Je fais journal de reconnaissance, gratitude.
Ok.
Donc ça, c'est genre 3-5 choses pour lesquelles j'ai de la reconnaissance. Ça fait toujours un peu marrer les gens quand tu dis ça, mais c'est hyper puissant. Parce que tous les jours, du coup, ça t'invite à aller chercher de la good vibe, en fait. Ouais, vraiment des bonnes choses. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps, qui est relié à la méditation. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais je médite aussi. Alors, quand... Des fois, c'est pas bien pour... Enfin, je sais pas bien. Des fois, je fais que 10 minutes, alors que je sais que c'est à partir de 20 minutes que j'ai vraiment les bienfaits de la méditation.
D'un point de vue scientifique, tu veux dire?
Ah, ou non, mais moi, scientifique, il faudrait voir certainement des études qui ont été faites, mais moi, personnellement, c'est 20 minutes.
Okay.
À partir de 20 minutes. Donc, il y a la méditation que je lis, en fait, je fais la méditation, et après, je fais le journal de gratitude, souvent.
Ok. Et aujourd'hui, c'était quoi tes points de gratitude?
Ben, je l'ai pas fait aujourd'hui. Ah, c'est un mauvais exemple. Que je m'étonne complètement. Non, mais je... En fait, c'est tout le problème dans ce moment d'être à Paris et d'être sur un lancement d'un gros projet, c'est que ça m'a cassé mes routines. Et là, un de mes objectifs de la semaine, comme on parle, c'est un mardi, c'est petit à petit de remettre de l'ordre un petit peu dans le chaos que j'ai créé malgré moi, on va dire, avec cette période. Parce que je me rends compte que c'est pas le mode de vie que j'ai envie d'avoir, le mode de vie lancement, le mode de vie intense, le mode de vie où t'es pas en maîtrise de ton lifestyle design, cette manière de comment tu vis tes journées. Mmh. Et tu vois, notamment les matins, moi, c'est important qu'ils soient bien cadrés. Et c'est plutôt l'après-midi et le soir où je vais aller chercher surtout l'après-midi d'ailleurs, où je cherchais plus de la spontanéité, un peu plus de chaos, de créativité, d'apprentissage. Et le matin, par contre, j'aime bien qu'ils soient bien maîtrisés pour me dire à midi, la journée, elle est réussie, quoi. Donc, j'ai cette routine. Et après, autour de 8h30, 9h, soit je pars dans un café pour faire ma session de travail du matin, soit je reste chez moi. Mais j'ai toujours un peu je sais pas toi d'ailleurs, je sais pas si tu travailles dans les cafés, mais un peu cette envie en fait d'aller à l'extérieur, tout en sachant qu'en plus c'est pas là où je suis le plus productif. Donc c'est marrant parce qu'en fait je sais que ça me fait perdre un peu de focus, de flow, mais je sais pas, j'aime bien l'idée toujours d'aller travailler avec des gens autour, et de pas rester juste chez moi. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille, parce que je pense à un rapport à la solitude. J'ai noté des choses là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à faire, d'accepter la solitude, alors que je suis quelqu'un qui aime pourtant bien être seul globalement. Mais j'ai toujours un peu cette tension de « Ah, je vais quand même au café. »
C'est juste le fait d'être entouré de gens qui,
ouais,
qui
oui, pas de parler nécessairement, parce que ouais, juste j'aime bien, t'as une ambiance, il y a du monde autour. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je le vois pas que comme une bonne chose. En ce moment, je le vois comme quelque chose que je veux travailler aussi. Okay. Parce que je pense que c'est bien, vu qu'en plus je marche déjà après m'être levé. Dans l'absolu, j'ai pas besoin de ressortir une deuxième fois pour reprendre l'air ou pour marcher un petit peu.
Okay.
Donc il y a ça. Et après, je sais pas si je fais toute la journée du coup au matin, mais
ouais. Bon, après, donc t'as des sessions de travail, t'en as une le matin.
Ouais, une le matin, après. Plutôt écriture le matin.
Ouais.
Le midi, souvent je vais manger vers midi et demi. Il y a le sport aussi dans l'équation. Ça dépend quel type de sport je fais. Soit je fais le sport le midi, soit je le fais la fin de journée, le début de soirée. Souvent, c'est plutôt début de soirée. Et l'après-midi, souvent, ça va plutôt être des conversations, des coachings que je donne, un peu de lecture, de la marche, des bonnes rencontres et du sport en fin de journée. Ouais.
Ok. Mais quand est-ce que tu travailles vraiment? Tu vois, le truc où tu te poses 4-5 heures et tu dois bosser pour délivrer.
Le matin, en plus.
Ok.
Ça reste. Moi, aujourd'hui, en tout cas, depuis 18 mois, ça a quand même été beaucoup. Mon vrai travail, c'était l'écriture, au final.
Ouais.
J'avais pas grand-chose d'autre à faire. En vrai, j'avais mes coachings. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup pour vivre. Je gère entre 5 et 10 clients au quotidien. Je les vois que deux fois par semaine. Enfin, donc c'est pas, deux fois par mois. Donc au final, j'ai même pas une heure par jour de ce que les gens appellent le travail.
Ouais.
Donc moi, mon travail, c'était de d'écrire et de lire. Ouais, c'est ça, écrire et lire au final.
Est-ce que tu peux expliquer grosso modo ton business aujourd'hui ressemble à quoi ? Sur quoi est-ce que tu travailles ? Je te connais, du coup, j'ai déjà réponse à la question, mais en gros, tu as ton livre, tu as de l'écriture, tu as une newsletter, tu as du coaching, etc. Est-ce que tu peux faire un peu une vue globale de tout ce que tu fais ?
Ouais. Déjà, j'ai une vie très différente, tu vois, même pour un peu faire une espèce de mise en contexte, que j'étais start-upper avant. Donc, ouais. J'ai connu la vie où ta journée, en gros, c'est d'avoir 48 tâches dans ta to-do list que tu dois clean avant la fin de la journée, parce que sinon, tu bloques quelqu'un dans ta boîte. Mmh. Enfin, sinon, tu as des salariés, notamment. Donc, tu es plutôt un preneur de décision qui fait plein de petites tâches. Et de temps en temps, tu essaies de caser des gros blocs pour pouvoir faire de la strat ou des choses comme ça. Mais globalement, c'est un problème qu'ont tous les CEO, c'est qu'on est pris un peu dans le flux du day-to-day et de ne pas être ce qu'on appelle le bottleneck, le goulot d'étranglement de ton entreprise. Donc, j'ai un lifestyle qui est complètement opposé à ça maintenant, parce que je l'ai déjà vécu celui-ci et je sais qu'il ne me correspond pas, en tout cas, à la phase dans laquelle je suis. Et du coup, ça m'a fait dire, je fonctionne vachement par phase, en fait. Donc, j'ai eu cette phase start-upper de 2015 à 2018. Et c'est vrai que là, ça fait quelques années, je suis sur un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus profond, tu vois, en termes de temps long, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de temps long, quoi, comme je disais. Et maintenant, donc mes activités. Donc, ce qui me fait vivre, à l'heure où on parle, c'est le coaching. Ça, en gros, j'avais une boîte de conseils où j'aidais les startups, les entreprises à se développer. Donc, les dirigeants me payaient pour aider vraiment la boîte. Et depuis 2 ans, j'ai switché et je suis passé vraiment à aider les personnes qui font les entreprises, donc les dirigeants, les CEO de start-up et les solopreneurs. Ça, c'est ce qui m'a aidé à vivre ces deux, trois dernières années.
Okay.
Et ça, c'est jamais plus d'un coaching par jour et c'est toujours 1 à 14h ou à 17h30 selon où je suis dans le monde et mon rythme du moment. Donc, par exemple, en ce moment, ce serait que à 14h. Donc, ils n'ont pas le choix, les clients, il y a un créneau à 14h et ils le prennent. Et au pire, on peut passer du mardi au mercredi ou jeudi selon les clients. Mais en gros, j'ai un coaching par jour du mardi au vendredi à 14h en ce moment.
Ok. Et tu ne fais pas que du coaching individuel, c'est un package que tu vends.
C'est que du individuel, oui.
Si. Et c'est un package, tu leur vends.
Je leur vends 3. Ah oui, au sens là. C'est des accompagnements de 3 ou 6 mois.
Ok.
Dans lesquels ils me voient une heure toutes les 2 semaines. Et il y a un WhatsApp pour échanger au quotidien. Alors certains l'utilisent beaucoup, certains ne l'utilisent pas. Et en fait, comment je l'ai structuré, c'est qu'ils ont eux du tracé, eux qui travaillent plus au final. Ils ont en amont, ils doivent m'envoyer, je leur envoie un formulaire en fait pour les aider à m'envoyer un peu comme un journaling, un peu ce qu'ils ont dans la tête, leurs priorités, leurs problèmes, etc. Moi, ça m'aide un peu à cadrer la session. On fait la session du coup qui est enregistrée. Enfin, j'utilise Zoom encore aujourd'hui. D'ailleurs, je pense partir de Zoom bientôt, mettre un meilleur outil. Mais en tout cas, je suis sur Zoom. Et je leur envoie le replay le lendemain ou le surlendemain avec un plan d'action. En gros, ils ont un ensemble de choses sur lesquelles réfléchir ou avancer. Et après, ils font ou ils font pas. Moi, je suis pas leur parent, donc ça, c'est leur problème après. Mais après, idéalement, plus ils actionnent les choses, plus ils avancent. Et voilà, donc la formule n'a pas changé quasiment depuis... À partir du moment où j'ai trouvé ce format-là, il y a 2 ans, en fait, j'ai pas bougé.
Okay.
Ouais, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi sur mes coachings.
Pourquoi est-ce qu'ils font appel à toi ?
Ouais. C'est une bonne question, ça.
Bonne question.
Ouais. Ça me permet d'introduire les autres choses que je fais.
Ouais, il y a tellement de sujets.
Et
t'arrives à bien garder le fil, donc ça va.
Ouais, ça va. J'étais podcasteur aussi.
Ouais.
Je sais ce que c'est de l'autre côté.
Ouais, je parlais de toi d'ailleurs tout à l'heure, un copain. Ouais. On en parlait tout à l'heure.
Ok. Alors, pourquoi il m'appelle ? Clairement, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire pour monter un business de coaching. C'est que j'ai pas de page de vente. J'ai pas une offre claire. C'est déjà suffisant pour. C'est déjà 2 problèmes assez importants. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu besoin, puisque j'ai une audience quand même. Alors, je suis pas un youtubeur avec des centaines de milliers d'abonnés, mais j'ai une audience assez engagée depuis quelques années. J'ai une newsletter en fait que j'ai lancée suite à ma startup que j'ai cédée en 2018. J'avais lancé une newsletter dans laquelle je documentais un peu mes réflexions. Alors, au début, c'était même plus des liens, c'était plus de la curation. Après, ça a été plus des réflexions. Et cette newsletter-là, aujourd'hui, elle est proche de 9000 abonnés. Et c'est de là que sont venus, ces dernières années, quasiment tous mes clients. Donc en fait, là, j'ai moins besoin de vendre parce que ceux qui me contactent me connaissent bien depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en fait, je parle beaucoup, c'est assez égocentrique parfois, cette newsletter. Enfin, en tout cas, elle l'a été à une époque, au sens, enfin, pas égocentrique, c'est pas le bon terme, mais assez centré sur mon expérience de vie, sur mes réflexions. Et du coup, je pense qu'ils me connaissent pas mal. Ceux qui l'ont vraiment suivi, cette newsletter, ils voient comment je pense, ils voient ce que je vis, ils savent ce que j'ai fait aussi, ou ce que je compte faire. Et donc, il y a toujours un point d'entrée qui a un poil différent, qui inspire. Donc, par exemple, tu as des gens qui vont venir me voir parce qu'ils aiment le combo entrepreneuriat-philo. Ils vont dire, ah, c'est pas l'énième gars qui parle de pur business, ou celui qui est plus en vibe dev perso, il met plus un positionnement, il met de la philosophie, où il se pose des questions, où il a lu des philosophes aussi, et des fois il recherche ça. Parfois ça va être le combo, t'as été start-upper et maintenant t'es solopreneur, du coup j'aime bien cette histoire et il veut faire pareil. Et là ça va être le nomadisme, ils vont dire ah t'es nomade et en plus t'as l'air de pas beaucoup travailler et en même temps de bien vivre, comment tu fais ? Donc tu vois les problèmes sont pas forcément les...
Mais la plupart ont envie de répliquer quand même un peu...
Ouais, souvent c'est ça. En fait, c'est le problème, c'est que t'es coach. Donc, dans l'absolu, quand tu dis du coaching, c'est quelque chose qui est un outil. Et le coach, lui, j'ai nuancé presque ce que je veux dire, mais c'est pas que le coach, peu importe qu'il y a derrière, mais un bon coach, en fait, il peut presque s'effacer et on peut presque oublier ce qu'il a fait de sa vie. Et ça devrait suffire, vraiment, par ses questions, ouais, par son style, à aider la personne. Dans la réalité, ça marche pas comme ça. En tout cas, pas pour moi. J'ai l'impression qu'ils viennent quand même comme si j'étais un consultant. Après, je leur dis, je suis plutôt coach, donc on va plutôt poser des questions. Sauf que, en fait, j'ai toujours à un moment la posture de consultant qui revient. Et après, je vois le client ce qu'il a besoin, en fait. Des fois, il a plus besoin de se questionner. Et des fois, il a besoin qu'on lui dise, de mon point de vue, voilà les options qui sont à ta disposition et voilà comment moi je les hiérarchiserai de mon expérience ou de ce que j'ai entendu, lu, vécu.
T'as un coach à qui on peut demander son avis, en fait. Là où peut-être un coach traditionnel, ouais, il va te dire... La vie doit venir de toi et c'est moi ça. Je vais t'aider à aller le chercher.
Et du coup, j'ai un peu les doubles casquettes parce que j'ai fait du conseil pendant 3 ans avant le. Donc, ça fait 6 ans que je fais du conseil slash coaching, pardon. Donc voilà comment il structure un peu mon business. Et du coup, il y a la newsletter qui part tous les lundis depuis octobre 2018, donc 5 ans, à peu d'occasions près où j'ai loupé. Donc t'as ça. Et après, je crée au quotidien du contenu, alors principalement sur LinkedIn depuis un an et demi.
Ok.
Et ça, c'est tous les jours. Donc, il y a ce post tous les jours. Et qu'est-ce que je fais d'autre encore? Après, j'ai eu plein d'autres projets sur ces dernières années. Mais là, les 18 derniers mois, clairement, c'était l'écriture. Donc, je suis dans une phase, je m'étais dit, voilà, je suis à l'étranger depuis 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans. Là, en 2023, j'ai passé 2 ans dans différents pays. Et le but, c'était rapidement, ça a été l'objectif de faire un livre, d'écrire mon premier livre. Parce que c'était un projet que je voulais faire depuis que j'ai 18 ans, disons 18, 20 ans. Et donc ça m'a pris énormément de temps parce que je voulais pas, c'était pas un livre carte de visite, moi je m'en fous, je l'ai pas fait pour faire des conférences ou gagner plein d'argent, tu vois, en levier, même si j'aimerais bien être intelligent dans ma manière de l'insérer dans un écosystème, mais moi c'était surtout un défi personnel et l'envie de transmettre quelque chose et de me prendre la tête, on va dire, pour faire le meilleur livre que je pouvais à l'instant T. Mmh. Donc je suis allé assez loin, on va dire, dans la prise de tête qui aura duré 18 mois, donc entre idée et publication.
Ok. Raconte un peu le processus. Donc, tu as toujours voulu écrire un livre.
Ouais.
C'était quoi la première étape vraiment pour lancer la machine de l'écriture ?
De l'écriture, pas du livre nécessairement.
Tu peux en parler parce que je pense que l'écriture a joué un rôle très important dans ton parcours et dans tout ce que tu as créé. J'ai rencontré un gars qui m'a dit ouais, son livre, en fait, c'est ses newsletters, tu vois. C'est une sorte de curation et d'amplification de ses newsletters. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai, c'est tout le travail que tu as fait sur 5 ans, je pense que tu l'as condensé, tu l'as mis dans un bouquin et tu l'as enrichi avec d'autres choses.
Ouais.
Mais en gros, quel a été le point de départ de l'écriture ? Mais après, j'aimerais bien aussi que tu me dises, moi, créateur de contenu, j'ai envie de créer un livre demain sur la créateur économie. Concrètement, comment je fais, tu vois ?
Okay.
Quelles sont les étapes pour écrire un livre ?
Mmh. Ok, il faut que je coupe en deux du coup
tu peux couper en deux.
La question. Alors moi, j'écris depuis... Depuis 2007-2008, j'avais un blog. Alors avant ma startup, c'est vrai, pour faire le parcours de manière décalée, j'étais joueur de poker pendant 6 ans.
Ouais.
Ce qui a été plus important pour moi au final que le lycée ou que l'université, que j'ai fait un peu en side project, l'école. Le main project, c'était le poker. Et cette phase-là, en fait, très vite, j'ai ressenti l'envie et le besoin de documenter. Donc ce qu'on appelle le building public, maintenant, moi, je l'ai fait il y a 16 ans, en fait. Dans le poker. Ouais. J'ai 32 ans, donc c'était à 16 ans maintenant. Ouais.
Donc la partie poker, tu l'as documenté, t'écris.
J'avais un blog sur il y avait des forums. Et sur un des forums que je fréquentais, t'avais la possibilité de créer son blog interne. Et du coup, j'avais créé un peu le blog pour suivre mes aventures. Et ça ressemblait à, voilà, à dire ce mois-ci, voilà mes résultats, voici comment j'ai vécu la chose, voici pourquoi j'ai joué tant, pas assez, pourquoi j'atteins mon objectif ou pas, quelques mains sur lesquelles on peut discuter ensemble. Donc c'est exactement comme un gars qui montrait sa boîte aujourd'hui et qui ferait un peu des comptes rendus, comme fait par exemple Théo Lyon de Koudak.
Ouais.
Sauf que moi je faisais ça dans le poker 10 ans avant les autres, entre guillemets. Enfin, en tout cas, moi ça me paraissait cool de faire ça. Et j'étais pas le seul, hein, je dis ça, mais au poker c'était une pratique assez commune par certains joueurs, en tout cas, de documenter, de partager. Il y avait beaucoup cet esprit aux États-Unis et en France. Donc j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Mais voilà, et j'écrivais très mal. Il faut savoir, je pars de loin parce qu'en fait, vu que j'étais très récalcitrant par rapport au système scolaire, je valorisais pas le français, je valorisais pas grand-chose en réalité de l'école à cette époque. Donc mon niveau d'écriture était très faible. Ensuite, j'ai commencé à écrire plus sérieusement à partir de 2015 quand j'ai lancé ma start-up. Et en fait, pareil, je me suis dit la même chose, je me suis dit, c'est cool de documenter ce que je suis en train de faire. Et pareil, là, j'étais un des premiers CEO de start-up à l'époque à parler en public. On me demandait même à l'époque, même des gens de Paris, ça m'étonnait, mais t'as pas l'impression que tu perds du temps à parler, enfin à écrire en fait. Quoi.
Parce que t'étais pas à Paris quand t'as
lancé. Moi, j'étais à Nancy. Alors à Nancy, c'était encore pire, c'est que j'étais même insulté, c'est un grand mot, mais les incubateurs du coin, ils disaient, mais tu travailles pas. Alors je disais, mec, je travaille 10 fois plus vite que toutes les boîtes que t'as autour de toi. Viens pas m'embêter avec tes leçons. J'ai dit ça en rigolant, mais en même temps ça m'avait un peu impacté à l'époque parce que j'avais pas trouvé, enfin je m'étais posé des questions, je me disais mais pourquoi il dit ça, moi je le fais de manière bienveillante, en plus j'ai envie de donner des conseils aux gens ou retourner, même pas des conseils, c'est des retours d'expérience, même d'erreurs que je faisais. C'était pas j'ai compris c'est comme ça que ça fonctionne, c'est j'ai fait telle connerie, voilà pour que ne vous la faites pas plus tard. Bon, ce qui marche pas en vrai parce que les gens font toujours la connerie en réalité, et après ils se rappellent de l'article, ils disent, et au moins ça les aide à mieux rebondir.
Ouais.
Il sert à ça l'article, il sert pas à pas faire la connerie, il sert à comprendre la connerie plus vite. Et donc ça c'est 2015 et j'ai toujours créé depuis en fait. Donc j'ai eu 2015-2018, c'était très centré entrepreneuriat, même 2019. J'avais aussi dans l'investissement de start-up, je m'étais intéressé à ça, j'avais créé des podcasts sur ce sujet dans la tête d'un VC. Et depuis 3-4 ans, c'est beaucoup plus sur la philosophie de vie, la philosophie plus largement, des réflexions plus existentielles. Et donc voilà, ça donne le background de l'écriture pour la première question. Et le bouquin, donc il y avait cette envie depuis très longtemps. Moi, c'était plutôt des romans que, en fait, idéalement, alors pour moi, c'est qu'une étape, ce premier livre. Tu vois, je me dis déjà, je vais en écrire d'autres. Et après, un des si je mets dans une bucket list, tu vois, un peu ce que j'ai envie de faire dans ma vie, tu vois, y a notamment l'écriture d'une fiction, d'un roman, c'est quelque chose qui me tente. Et pareil, là, en me disant, alors on parle, je suis très loin de me sentir capable encore de produire de la bonne fiction. Mais c'est pas grave, c'est comme tout, tu le prends et tu progresses. Et ça, généralement, ça se passe bien. En tout cas, quand je me donne les moyens de réussir quelque chose, j'arrive normalement. Et ouais, je pense que pour la plupart, enfin, j'espère en tout cas, c'est une mentalité que j'essaie de pousser aux gens, de se dire, tu peux prendre la majorité des choses, alors vraiment que tu sois génétiquement pas adapté à ce sujet. Par exemple, j'aurais pas pu jouer à NBA, peut-être, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc l'écriture du livre, ouais, ça, c'est un projet de longue date. Et l'écriture de ce livre spécifiquement, enfin un livre de non-fiction, ça fait 2-3 ans que j'y réfléchissais.
Okay.
Donc j'ai mis une bonne année avant de m'y mettre vraiment. Et voilà. Et après, tu voulais que je décrive le.
Ouais, concrètement, par exemple, admettons que là tu veux m'aider à lancer mon livre.
On va le faire dans le sens là. Ouais.
C'est quoi la première étape que.
Ouais. Alors, et ça te permettra de dire les bêtises que j'ai faites.
Ouais.
Ouais. Alors, première chose, je pense. Un livre de non-fiction, ça part d'une big idea, c'est comme une page de vente en copywriting. C'est quoi la grande idée de ton bouquin? Moi, j'ai fait cette erreur, c'est que j'avais beaucoup d'idées et j'ai voulu les mettre un peu dans le premier plan, la première version de mon livre. Et je me suis retrouvé avec un livre qui n'était pas cohérent, où on ne voyait pas c'était quoi le point du livre en fait. Où est-ce que tu veux nous amener? Et ça m'a fait perdre 3-6 mois.
Ok.
Ouais. Ça m'a même fait, mon éditeur que j'ai aujourd'hui, Erol, il avait même refusé mon première proposition de livre.
Ok.
Alors que ça fait des années qu'il me suivent et que c'était censé être une formalité, il m'avait dit. Il m'avait dit, ah, c'est bon, t'envoies ton petit document, on valide le dossier, on passe à la suite. Et la réalité, c'est pas ça, c'est que si t'as un livre même si t'as une audience, si t'as un livre qui tient pas la route, parce que, le pitch ne tient pas la route, tant mieux, t'es pas publié. Et donc, bien se dire, c'est quoi ma big idea et c'est quoi un peu les sous-idées, on va dire, que je vais pouvoir développer, donc peut-être, je sais pas, qui peuvent être les prémices des chapitres, donc on va dire entre 5 et 15 idées, on va dire, que tu pourrais développer dans ton livre, mais qui sont reliés à ton idée principale. Il faut que ce soit cohérent. Donc ça, c'est une chose. Après, je me poserai la question de, bah, du persona. En fait, c'est du pure marketing. Hein. Qui va lire ce livre ? Qui va lire ce livre ? Comment je m'adresse à lui ? Quels sont les autres livres sur le marché qui existent déjà ? Qu'est-ce que je vais apporter de différenciant ? Donc, c'est des questions assez basiques au final de marketing. Je pense que je me posais la question aussi quel livre je dois écrire pour qu'il y ait du bouche à oreille ? C'est que se dire, est-ce que si la personne lit ce livre, elle le referme, elle se dit putain, c'est incroyable, pour le personnel en tout cas. Il faut absolument que j'en parle à 5 personnes autour de moi, à mes potes. Ça, c'est un truc qu'il faut se dire, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, c'est un kiff, enfin, pas un kiff, c'est une lubie, mais moi, je voulais que mon livre soit au maximum intemporel, de ce qui est possible en tout cas. Donc, qu'est-ce qui fait que mon livre peut être encore lu dans 10, 20, 50 ans ? Donc, ça veut dire enlever tout ce qui est périssable, au maximum en tout cas. Je sais que les gens critiquent Houellebecq, par exemple, c'est marrant ça, en littérature, parce qu'il parle de monoprix. Et en même temps, je trouve ça marrant, parce que c'est certes, monoprix, dans 300 ans, ça n'existera plus, peut-être, et encore. Mais au moins, les gens, ils pourront se dire « Ah, c'était comme ça que les Français vivaient. Ouais. » Donc ça, c'est un exemple, ça va, c'est marrant. Mais par contre, parler de quelque chose qui est très temporel, une news de l'année, enfin des choses comme ça, ça, faut pas mettre dans un livre.
Ouais.
En tout cas, pas si tu veux que le livre il dépasse les 18 mois.
Tu parles pas du salon de l'auto 2023, quoi.
Non, sauf si t'as une anecdote incroyable. Moi, je parle un peu du Covid dans le livre. Par exemple, le Covid, je pense qu'on en parlera encore dans 20 ans, tu vois, je me dis.
Bon, le Covid, ça a été transformationnel, quoi.
Donc, ça, je peux faire référence, ça parle aux gens. Ça parlera encore dans plusieurs décennies, donc il n'y a pas de souci.
Ok.
Bon, on espère, parce que ça veut dire qu'il s'est passé tellement de trucs de ouf depuis que si on n'en parle plus, c'est qu'il y aura eu des. C'est qu'on sera mal. Donc, il y a ça. Et après, bah, faire un premier plan. Premier plan, okay. De se dire, c'est pas forcément le plan définitif évidemment, mais tu te dis combien d'idées de chapitres, tu commences à faire un plan très malléable, hein, tu mets juste des idées de chapitres. Et à partir de ça, moi ce que j'ai fait, c'est de trouver aussi le. C'est marrant que je te dis ça a posteriori, comme si du coup j'avais compris, alors que moi ça m'a pris par presque un an, on va dire, avant de trouver la bonne structure. Donc une fois que tu as le plan, donc il y a une prémisse de plan. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. C'est intéressant en créateur économie, c'est que j'ai build in public le livre aussi. C'est que je me suis dit, plutôt que d'écrire dans mon coin pendant un an là, le bouquin, eh ben, je vais publier les prémisses des chapitres qu'il y aura dans le livre. C'est pour ça que ton ami, en fait, il a dit que c'est ses newsletters, parce que bah oui, c'était les newsletters, effectivement.
Ouais.
Mais je l'avais dit ouvertement, j'avais dit, ce sera c'est les V1 des chapitres finaux. Même si. J'espère en tout cas, j'ai fait un gros travail entre la V1 et ce qu'on va appeler la V4 presque, évidemment. V3, V4. Ça n'a rien à voir en qualité, mais les idées qu'il y a dedans sont sensiblement les mêmes. Oui.
Mais tu as aussi mis en place un système de bêta lecteur.
Ouais,
tu avais un groupe de 15 personnes.
Effectivement, j'ai fait pendant la premier G. J'avais un groupe de douzaine de personnes qui étaient des abonnés à nos newsletters. J'avais proposé à ceux qui voulaient postuler. Et je les voyais une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines. J'ai fait ça pendant 2-3 mois. Et après, j'ai arrêté parce que j'avais du mal à. J'ai l'impression que ça me prenait de l'énergie pas mal, mine de rien. Donc c'était pas mal, mais j'ai pas la bonne personnalité pour gérer un groupe comme ça au quotidien. J'ai eu besoin de retourner dans ma grotte tout seul un petit peu. Et ce que j'ai fait, du coup, donc, c'est que le premier G, un chapitre par semaine, là, je me suis mis comme un YouTuber. Tu vois, je me suis dit, OK, lundi prochain, je ship un chapitre, pas écrit, pas une vidéo, mais plus ou moins la même idée, un chapitre par semaine. Et du coup, j'ai découpé ma semaine avec ce que j'avais besoin de faire pour pouvoir shipper le chapitre. Donc le lundi et le mardi, je faisais la recherche et la structuration du plan. Bon, la recherche, en gros, j'avais déjà, parce que j'ai un second cerveau, enfin, j'ai tout ce qu'il faut normalement, j'avais plein de notes pour pouvoir écrire, faire la matière.
Un second cerveau, juste pour info, c'est un outil que tu utilises qui te permet d'organiser tes notes, tes pensées. Et de les réutiliser beaucoup plus facilement quand t'as besoin de quelque chose, quoi.
Exactement.
Les notes sous stéroïdes, en gros.
Oui, parce qu'elles sont interconnectées. Enfin, si tu utilises des outils comme Obsidian ou Rome Research, à la différence d'un Notion, c'est que tu peux faire des interconnexions et du coup, tu te balades comme dans un réseau. C'est des réseaux neuronaux, en fait, si tu veux.
Ouais.
Donc, c'est assez puissant. Donc, j'ai ce système-là qui m'aide, moi, à. En fait, c'est pour ça que les gens. Il y a beaucoup de références dans le livre. Et en fait, quand c'est des mecs du web et qu'il y a beaucoup de références. j'ai envie de dire, ça fait bugger un peu les gens parce qu'ils vont peut-être se dire que c'est pas un académique, c'est pas un universitaire, donc pourquoi il y a autant de refs. Mais souvent, moi j'ai déjà lu des livres comme ça récemment, américains, c'est qu'il y a un second cerveau derrière. Je commence à sentir les bouquins écrits aidés par des seconds cerveaux. Parce que c'est ça. C'est très différent, par exemple, je te prends l'exemple d'un Mark Manson, tu vois, qui a fait un méga best-seller, 15 millions de ventes avec l'art subtil de s'en foutre, mais il est très peu référencé son livre. D'ailleurs, il s'était fait critiquer à l'époque, parce qu'il y avait zéro référence, il n'y avait pas de bibliographie, et maintenant il est devenu obsédé par les références. Il est bombe, il blinde vraiment, il est très, très presque universitaire dans sa manière d'écrire, enfin pas d'écrire, mais sa manière de montrer qu'il y a des refs en fait, et qu'il met les sources et les études qui back, etc. Parce qu'avant c'était un peu le voodoo dev perso. Même si le livre, moi, je trouve génial, l'art subtil de s'en foutre.
Ça collait bien avec le titre du livre, en tout
cas. Ouais, ça collait bien avec le mec. Mais maintenant, c'est marrant parce qu'il a été impacté par ça, mine de rien. Mmh. Alors que le mec a fait 15 millions de ventes, hein, donc bon, a priori, bref, il peut avoir des critiques, mais en tout cas, le bouquin est très bon. Donc, ouais, il y a le second cerveau, je te parlais de ça. Après, on parlait de ça, le second cerveau. Et donc, j'écrivais, donc j'avais le lundi et le mardi ces recherches, le plan. Du mercredi au vendredi ou du mercredi au samedi, j'écrivais le chapitre. Et le dimanche et lundi matin, j'éditais.
Okay.
Donc je corrigeais succinctement, pas en version définitive, mais pour que les gens puissent lire. Et je publiais. Ils ont reçu les abonnés pendant 4-5 mois, un chapitre ou un demi-chapitre chaque semaine. Parce que des fois, il fallait que je coupe en deux les chapitres parce qu'ils étaient trop longs. J'avais des chapitres en V1, ils faisaient 10 000 mots. Un chapitre de bouquin, en moyenne, c'est 4-5 000 mots.
Okay.
Donc il y avait deux fois trop de matière. Tu peux pas envoyer une newsletter de 10 000 mots aux gens. Tu peux pas envoyer une newsletter de 4 000 mots normalement non plus. Et bon, je les ai envoyés quand même. Donc j'ai fait ça toute la fin d'année dernière. Donc là, mon conseil, c'est de trouver une manière d'écrire qui te corresponde. Moi, il se trouve que ça m'a motivé d'écrire en public. Parce que je trouvais ça trop chiant, trop sérieux, trop dépassé presque d'écrire un livre dans son coin. Et je me dis, maintenant, tu peux avoir de la data en live avec ton audience. Donc, à quoi bon attendre le dernier moment pour savoir si les idées sont cohérentes, tu vois? C'est un peu bête, je trouve, maintenant.
Mais tu vois, si on demandait aux gens dans les années 1900 ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides,
ouais,
et la voiture n'existerait pas. Est-ce que t'as pas l'impression que demander à ton audience des inputs sur ton bouquin, c'est peut-être le mauvais moyen de faire les choses? Ou comment est-ce que t'as vécu, toi, les feedbacks que t'as reçus?
Ouais. Alors, c'est pas tant de demander des feedbacks qui vont changer le bouquin, c'est est-ce que ça résonne chez les gens, tu vois, tes idées. C'est parce que c'est des lecteurs, en tous les cas. Ce seraient les mêmes lecteurs, plus ou moins, qui liront le livre.
T'avais un système de feedback.
Donc, des fois, c'est des trucs subtils, hein. Ça peut être des trucs qualitatifs. Le nombre de retours sur Substack, de likes, comment les gens, les messages que je reçois. C'est pas genre, change telle phrase. C'est, oh là là, ce chapitre est incroyable. Enfin, cette newsletter est incroyable. Ça m'a marqué, et du coup je me suis dit, ah, ce concept-là a l'air de plaire, est-ce que en fait ça peut pas faire une sous-partie complète, ou voire même un chapitre, en fait j'ai pas vu, mais il a le potentiel, okay, d'être un chapitre plus que trois phrases, en fait, hein.
Okay.
C'est plus que ça que je voulais dire.
D'accord.
Donc t'as cette phase-là, après t'as la phase plus de réécriture, et là moi le conseil que je peux donner, c'est de se faire seconder, enfin se faire en tout cas aider, parce que c'est un vrai travail de réécrire. C'est beaucoup moins cool que l'écriture. Parce que là, il faut corriger, en fait, il faut taper dans le gras. Et moi, tu vois, j'avais 90 000 mots au premier jet. Et version finale, c'est 53 000, 54 000 mots. Donc on a presque divisé par deux le bouquin.
Quand tu dis on, c'est un coach d'écriture?
Ouais, j'avais un coach, copywriter d'écriture.
Tu l'as trouvé comment?
C'est un. Quelqu'un je connaissais déjà, c'est Selim Niederhofer, qui était un coach en copywriting.
Ok.
Qui est excellent. Et c'est l'ami d'un ami que j'ai rencontré un an avant. Donc, le hasard a fait que il voulait se lancer sur l'accompagnement d'auteurs, et j'étais son premier client. Donc on a fait un test ensemble, et le quotidien, c'était un petit peu comme sur la version, enfin la V1 avec l'écriture, c'est toutes les semaines on avançait sur un chapitre, et par exemple moi je commençais à corriger ma version originale, je l'envoyais avec un petit plan détaillé du chapitre pour dire les grandes idées en fait que je voulais absolument dans le chapitre. Lui, il faisait des corrections qu'il me suggérait dans un Google Doc. Et après, on avait un call ensemble, on en discutait. Et je prenais ou pas certaines remarques qu'il y avait, en fait.
Okay.
Mais il m'a beaucoup aidé, notamment à mieux structurer de manière linéaire ma pensée.
Okay.
Alors c'est pour ça que j'aime bien les seconds cerveaux, parce que j'aime bien pouvoir partir dans tous les sens. Mais un livre, c'est, il y a un début, il y a une fin. Tu peux pas partir, référence au chapitre 2 dans le chapitre 9, et puis après, référence au chapitre 4 dans le chapitre 10, etc. Enfin, faut que ça soit un minimum linéaire. Donc, il m'a aidé à faire ça.
Okay.
À tout structurer. On a vu à tous les niveaux. On a vu le chapitre, la partie, le paragraphe, la ligne, le mot.
Tu parlais des rôles, tu disais, ils me suivent depuis longtemps.
Ouais.
Ils te suivent comment? Ils t'ont vu sur LinkedIn?
Ouais, ils m'ont, en fait, non, c'est des amis qui sont fait publier.
Ok.
Ils m'ont présenté à l'éditeur, notamment un pote, Onur Karapinar, qui avait écrit un livre, sa Petites Habitudes, Grandes Réussites. D'ailleurs, qui a super bien vendu. C'est parce que c'est un peu le James Clear français, d'une certaine manière, son bouquin. Et il a fait beaucoup de ventes, tu vois, par rapport à son audience. Et c'est un best-seller, 15 000 ventes, c'est beaucoup en France. Et il m'a présenté à l'éditeur. Et depuis, ils me suivent, en fait. Il y en a un qui s'est abonné à ma newsletter. Pareil, et il suivait, je recevais des mails des fois. Je l'avais rencontré plusieurs fois les 3-4 dernières années. Il m'avait proposé d'écrire un livre sur le stoïcisme il y a 2 ans. J'avais décliné à l'époque parce que je voulais écrire quelque chose qui partait plus de moi. Et donc, voilà, il y avait ce lien en fait qui était là. Et après, moi, je connaissais pas mal les éditeurs parce que j'avais essayé de créer ma propre maison d'édition il y a 2 ans aussi. Donc, j'avais rencontré beaucoup d'éditeurs à Paris aussi.
Ok. Et pourquoi au final tu te fais accompagner par un éditeur? C'est quoi l'intérêt versus toi, tu avais déjà ton audience.
Ouais.
Donc, tu aurais pu le faire en auto-édition.
Alors. Je pense que la raison principale, il y en a deux, c'est la capacité à être dans les librairies. J'en ai fait un post LinkedIn même aujourd'hui, tu vois, je disais, c'est, en fait, l'auto-édition, il y a plein de bons trucs, on va pouvoir y revenir après, c'est intéressant d'un point de vue business, beaucoup plus de, enfin, c'est sans permission, l'auto-édition, beaucoup. Mais, en fait, j'ai lu tellement de livres, en fait, que j'ai découvert en librairie, et j'adore l'idée qu'il y ait des gens en fait qui tombent un peu par hasard, qui sont pas dans mon audience actuelle ou de réseau de mon audience, qui vont se dire à la librairie c'est quoi ce truc, ils le regardent et ils disent ça a l'air pas mal, et tu leur changes la vie, mais ils te connaissent pas du tout.
Ouais.
C'est très différent quand tu fais quand tu vends avec ton audience, à ton audience, ils te connaissent. Donc c'est pas le même process. Et je donne un exemple, là j'ai appris que il y a déjà plus, ils avaient genre une dizaine d'exemplaires dans une des librairies de ma ville, à Nancy. Et ben mon frère m'a dit, ils sont partis, ces bouquins, il y a plus.
Ok.
Alors ça fait 3 jours, tu vois, 4 jours qu'il est en librairie là.
Et c'est pas ton fan club de Nancy, c'est des gens
non,
qui te j'ai connaissent.
J'ai pas comme ouais, alors si, il y a quand même un ou deux qui l'ont acheté de Nancy, qui me connaissent. Mais je pense pas qu'il y en ait 10 qui soient allés en librairie.
C'est pas tes parents qui sont partis acheter tout le stock.
Non, non. Ma mère, elle a déjà reçu le livre, elle l'a pas acheté. Et. Non, c'est sûr, c'est des
donc inconnus. La distribution que t'apporte un éditeur, la distribution, les librairies,
ouais.
Les dédicaces en librairie, ces événements que
ça, c'est important. Aussi. T'as aussi tout le travail après que tu remets le manuscrit, où ils vont gérer avant la publication du livre. Du coup, le taf avec les commerciaux, la maquette, l'imprimeur, toi, c'est plein de choses chiantes à gérer. Donc au moins, ils géraient ça. Moi, j'avais un peu peur de mal gérer tout seul le lancement. Donc c'est surestimé en vrai. L'éditeur, peu importe qui il est, c'est pas lui qui gère ton lancement. Eux, ils savent pas gérer des lancements, c'est pas leur métier. Ils sont clairement en retard au niveau, tu vois, au niveau de là où ça se joue aujourd'hui. Au final, Amazon, le web, c'est clairement pas leur cam encore. Donc faut pas compter sur eux là-dessus. Par contre, je sais pas, ça te fait rire.
Ah, c'est marrant.
C'est la vérité après. C'est,
ouais, c'est un business centenaire, je pense. Ils sont.
Ah oui, carrément. Erol, par exemple, mon éditeur, il a 97 ans.
Ouais.
La maison d'édition a 97 ans. Et encore, c'est pas la plus ancienne de loin. Mais en fait, c'est normal. On pourrait même philosopher là-dessus. En fait, je pense que nous-mêmes, dans 50 ans, on aura créé des industries en fait, qui sont complètement dépassées, mais on aura des rentes du passé. Parce qu'en fait, ça, un éditeur, j'ai un ami qui me le disait très bien l'autre jour, c'est. En fait, ils ont même pas incentivé dans l'absolu à excellemment vendre. Au présent, parce qu'ils ont des revenus passifs qui est le catalogue du passé. Donc à partir de ça, en fait, je pense qu'au quotidien, t'es moins incité à être vraiment updaté, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour performer? Ils ont pas le couteau sous la gorge. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des industries, c'est ce qui se passe. C'est toujours un outsider qui arrive et qui tape le gros. Ouais. Parce que le gros, il est gros, quoi. Il a des dividendes. Il y a un bouquin là-dessus, d'ailleurs. Un bouquin business. Je sais plus comment il s'appelle, qui est assez connu sur justement comment les gros peuvent se réinventer pour ne pas se faire taper par un petit un jour. Mais le nom m'échappe, c'était assez connu il y a genre 10 ans, 5-10 ans.
Ok.
Faudrait que je te redirai peut-être la ref. Mais donc, attends, pourquoi on parlait de ça?
Je te demandais ce que t'apporte un éditeur.
Ouais, l'éditeur, donc il t'apporte ça. Après, il y a tout ce qui est un peu ce qu'on appelle la vanité symétrique ou les crédits sociaux. Clairement, bon, c'est marrant, mais ça fait plaisir à la famille. Tu vois.
Ouais.
Depuis que j'ai fait Fetch, toi, j'avais une grosse. C'était très valorisé dans ma startup par ma mère qui était B2C. En plus, elle les voyait. Donc, c'était en pitch en deux secondes, c'était un Deliveroo des villes entre 100 et 200 000 habitants.
Ouais.
Uber Eats, que j'ai créé un petit peu avant que ces boîtes-là s'implantent en France. Et qui était dans 7-8 villes en France. Et très connu, notamment à Nancy MS, de la région où je suis originaire. Donc il y avait cette notoriété que ma mère aimait bien, je pense. Et du coup, bah, là, il y a le livre. Donc tu as le statut social, tu es auteur, tu es écrivain, c'est à la librairie, à côté de son travail. C'est cool pour elle. Il y a le. En société, tu n'es pas vu pareil quand tu as écrit un bouquin. En France, on valorise énormément les auteurs. Tu dis j'ai écrit un livre, les gens ils te regardent pas pareil que c'est pas comme si t'écris des posts LinkedIn, tu vois.
Ouais, surtout si tu dis que c'est chez Erol, Gallimard, ouais. Ou j'en sais rien, ouais. Tu vois une.
Ouais. Alors ça a l'air un peu con, mais moi-même en fait je me bats des fois contre ce côté un peu status game et tout.
Ouais.
Mais il faut pas se leurrer, il y a un moment dans la vie ça aide aussi quoi. Quand tu c'est juste faut avoir conscience que c'est pas tu le fais pas. Moi je prends pas du plaisir intrinsèque on va dire là-dedans, mais je sais que ça m'aide dans ma vie. C'est juste de bien le prendre parce que. C'est ça qui est dangereux dans le status game en fait, c'est de vivre pour le status game. Alors que le status game il sert quand il est mis au service de quelque chose qui dépasse le status game. Donc il y a cet intérêt. Et donc voilà, après c'est plus des choses de stackabilia. Et sinon en réalité, après ben, il vaut mieux auto-éditer. Hein. C'est la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu valorises pas ça, tu vas pas gérer toi-même le packaging. Donc tu vas pas. Disons, moi j'aurais bien aimé faire des choses du style. Envoyer des boîtes avec le livre dedans et des bonus.
Okay.
Ou créer des offres. Toi, pas sur Gumroad, mais toi, un peu l'idée de Gumroad, des choses comme ça, où tu peux avoir le livre plus une vidéo, ou le livre plus une formation, le livre plus un coaching, le livre plus quelque chose d'autre. Quoi. Et que tu crées des espèces de bundles avec des prix plus en plus chers. Et que le livre, au final, soit presque un lead magnet. Tu peux aller même plus loin. Si j'avais tout édité, et dans mes prochains livres, c'est un monde où je mets le PDF en gratuit, comme a fait Naval, enfin pas Naval, mais Eric Jorgensen de l'Almanach, de Naval Ravikant. PDF gratuit, Kindle 99 centimes, 1 euro.
Symbolique, parce que ouais, tu es obligé de mettre un prix.
Parce que tu dois mettre un prix, et encore, même pas sûr.
Ah ouais, sur Amazon.
Ouais, c'est possible que tu puisses mettre gratuit. Et version hard copy, enfin version physique à 15 euros quoi,
ouais.
Ou même pas 12 euros si je peux. Enfin, en fait, de toute façon, c'est pas, tu gagneras pas d'argent avec un livre. En France, c'est sur un marché qui est trop petit,
ouais.
À moins que tu vendes 400 000 exemplaires, ce qui est personne n'a fait en 10 ans en non-fiction, on va dire de nos milieux. Hein, je te parle pas de politique ou autre, mais dans nos milieux, c'est pas ça qui va te faire vivre. Donc autant diffuser au maximum les idées, autant récupérer des emails, si t'as une logique business. Autant que ça soit un produit d'entrée pour un écosystème plus grand.
Tu te sers du livre comme un produit d'appel, ouais. T'intègres les gens dans ton écosystème pour leur vendre un coaching à,
ouais, à plusieurs milliers d'euros.
Plusieurs milliers d'euros.
Ça dépend. Exactement. Enfin, tu auras un funnel en tout cas. C'est ton point. Une des portes d'entrée de ton funnel.
Et du coup, là, moi, dans mon cas, par exemple, tu me dirais de faire quoi? De faire une sorte de mini e-book, je sais pas, introduction à la créateur économie. Ah, mais les même acteurs de ouais, cet univers.
Ça peut même être un livre, parce que en fait, c'est une question de perception. Quand tu dis e-book, tu vois, ça donne l'impression un peu cheap.
Ouais, c'est vrai.
Indépendamment du prix que tu vendras, on va pas avoir l'impression que tu as été donné pour le livre si tu l'appelles e-book.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, à l'inverse, regarde le manuel LinkedIn de Thibault Louis et Maudel Aves. Ça doit faire à tout casser 50 pages, et encore. Et le vendre 80 euros, parce que c'est le manuel LinkedIn qui vend sur Notion,
ouais,
avec un truc bien packagé. Et du coup, ils l'ont pas appelé un e-book. Un e-book, il aurait vendu 3 euros.
Ouais, comme quoi les mots ont leur importance. Mmh.
Ah, c'est le manuel LinkedIn, c'est THE manuel.
Ouais.
Il est sur Notion, avec un tool, enfin une surcouche qui rend la chose bien. Donc je ferai soit voilà, un produit, ou Peter Levels, en parlant en privé de Peter Levels. Il a, je sais plus comment s'appelle son livre, mais il a
make.
Son.
Comment dit, je crois que c'est Make.
Make.
Ouais.
Il coûte combien? Genre, c'est cher, hein,
49 dollars, ouais, il me semble. Et il a fait plus, je sais pas, 300 000 dollars de vente, ou un truc comme ça.
Oui, parce que c'est auto-édité,
ouais.
Il y a une grosse marge parce qu'il le vend très cher pour un livre. Donc moi, je chercherais à marketer mon livre d'une manière, tu vois, qui augmente sa ouais, valeur. Il y a deux manières. Soit tu surprices par rapport à ce qu'est un livre. Du coup, il ne faut plus que les gens se disent que c'est un livre. C'est un objet de collection, c'est un guide, c'est un manuel, c'est je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un livre, mais le contenu et c'est des mots, mais tu vends autre chose. Ou à l'inverse, tu te dis, je fais énormément de ventes, enfin en tout cas pas de ventes, mais de pas des ventes, du coup c'est quoi, c'est des téléchargements,
ouais.
Et je le rends quasi gratuit, quoi, ou ouais. Gratuit. Mais l'entre-deux, en fait, l'entre-deux de 19 euros, c'est nul, en fait. Okay. En fait, c'est nul, parce que tu vois, c'est, ça arrange personne, le truc à 10, mon bouquin coûte 19 euros. Moi, ça me va pas parce que je trouve ça trop cher pour les gens qui te connaissent pas. Parce qu'en fait, malgré tout, même si moi je considère qu'un livre c'est toujours un bon investissement et j'aurais pas les dépenses, je sais que c'est pas la majorité qui pense comme moi.
Ouais.
Donc c'est quand même un investissement. Ça coûte ce prix-là parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans la chaîne de valeur. Il faut rémunérer tous les acteurs qui composent la chaîne, l'éditeur, l'imprimeur, le libraire, toute la chaîne. Donc au final, personne gagne vraiment de l'argent là-dedans parce qu'ils gagnent tous une petite fraction de ça. Toi, t'en vis pas. Donc ouais, le marché est... Et tu peux pas faire ce que tu veux, donc tu utilises pas bien les leviers. Ouais, là, je suis en train de défoncer au final le modèle. Mais bon, encore une fois, je défends connaissance de cause, parce que je connaissais très bien ce milieu avant. J'ai pas découvert ça il y a deux semaines au moment de publier. Mais c'est une réalité et c'est intéressant de voir justement, ça tu me fais réfléchir, voilà, j'ai déjà pensé dans le passé, comment tu peux autrement, on va dire, générer de la valeur ou du cash même directement avec un livre. Et c'est ce qu'on a dit, donc soit très cher, soit gratuit, qui rentre dans un écosystème.
Ouais.
Et au final, là, on est dans un entre-deux avec un livre édité. Donc si t'as pas les envies ou tu trouves pas les bénéfices que moi j'ai cités qui me suffisent, on va dire, malgré les problèmes que ça engendre, bah voilà, faut auto-éditer.
Parce que là, toi, tu gagnerais peut-être 50 centimes ou 1 euro par vente de livres, voire moins.
Bah, c'est entre 8 et 12%, okay. Selon combien tu vends de bouquins.
Ouais.
Ou entre 6 et 10, selon les auteurs. Enfin, ma connaissance. Donc ouais, c'est 50, ça, 1,50 euro, 2 okay. euros. Enfin, tu fais pas ça pour ça, quoi.
On vend 1 million. L'ENA Situation, par exemple, elle a dû...
Oui, mais là, alors, c'est intéressant, parce qu'on revient sur justement les auteurs maintenant... Enfin non, les éditeurs cherchent des influenceurs, des gens qui ont des audiences, en tout cas. Et on voit que ceux qui vendent le plus, effectivement, c'est ceux qui ont les plus grosses audiences. Ça va de l'ENA Situation à Zemmour. Tu vois, par exemple, tu prends un cas extrême, Zemmour, c'est pas un mec du web. Et quoique, il a sa chaîne YouTube. Il avait sa chaîne YouTube pour les élections il y a un an, là. Donc, il a une plateforme. C'est lui qui vend très bien ses livres. L'ENA Situation, elle a, je sais pas combien, c'est quoi, plusieurs millions d'abonnés sur YouTube. Ouais. C'est elle qui vend le plus de livres. Tu regardes dans nos milieux plus business, celui qui a vendu plus de livres, je crois que c'est Stan Leloup et éventuellement Olivier Roland. Les deux ont des grosses audiences.
Ouais, c'est vrai.
Donc aujourd'hui, l'éditeur cherche forcément des gens qui ont des audiences. Avec la limite, il y a quand même une limite à ça, c'est que les gens, bah, comme moi par exemple, qui ont plutôt des audiences en dessous de 50 000 abonnés, moi je vais avoir 40 000, tu vois, tout cumulé. Bah, c'est pas assez pour faire des méga best-sellers, sauf si ton livre il part vraiment effet boule de neige, tu vois, enfin bouche à oreille de dingue, ou qu'il y a une polémique autour, ou qu'il y a quelque chose qui fait que ça part, tu vois. Mais par l'audience elle-même, je trouve que c'est très dur de faire un gros best-seller, 100 000 ventes, c'est impossible, tu vois, quasiment.
Tu parlais de. Je t'interromps ou pas ?
Ouais, vas-y, non, vas-y.
Tu parlais des. Quand t'as écrit ton bouquin, t'essayes d'intégrer des mécanismes de viralité ou te dire comment est-ce que je peux faire que ce bouquin soit recommandé par des gens à leurs potes, etc. T'as des exemples à donner de trucs que t'as mis en place ?
Ce que je t'ai dit, en fait, je redis, c'est que tu m'as demandé le conseil pour toi, donc je te donne les conseils de quand j'ai fini le livre, de ce que j'ai réfléchi posteriori.
Okay.
J'ai lu un livre que je peux te recommander qui dépasse le livre, c'est « Comment rendre une œuvre intemporelle ». Ça s'appelle « Perennial Seller » de Ryan Holiday.
Okay.
Qui est le mec le plus connu sur le stoïcisme, qui est une des philosophies sur lesquelles je me base, bah déjà dans ma vie personnelle, mais aussi dans le livre. Alors, je le redis, parce que les gens qui me suivent, je suis pas stoïcien, j'ai aujourd'hui, ouais, caméra, elle est là, parce que tout le monde croit que je suis stoïcien, mais je m'inspire du stoïcisme et j'essaie de créer une surcouche par-dessus. Je modernise aussi au maximum cette philosophie. Mais Ryan Holiday, lui, il a vraiment masterisé, voilà, comment, prendre le stoïcisme, en faire un super produit moderne et un super business. On peut en parler après parce que c'est des choses sur lesquelles je réfléchis aussi. Je me suis perdu. Du coup, la question, c'était...
Intégrer des mécanismes de viralité.
Oui, donc il en parle dans ce bouquin-là.
Okay.
Après, moi, ce que j'ai fait dans le livre, mais c'était pas voulu, c'est qu'il y a des chapitres, on va dire, qui sont plus incisifs que d'autres. Donc, il y a des... Voilà, ça, je veux pas jeter de la poudre, enfin, avant que la poudre arrive, tu vois, on va dire, mais... Il y a des chapitres qui peuvent, on va dire, questionner des gens, tu vois, je sais pas trop comment dire, mais tu vois, qui les gens un peu plus sensibles, on va dire, ouais, qui font réfléchir, ou même qui peuvent un peu énerver, tu vois.
Ouais.
Donc il y a un monde où ça ça fait vriller certaines parties de la population. Ouais. Mais en vrai, je pense pas avoir maximisé ce côté viral dans le livre. Par contre, ce que j'essaie de faire là, c'est créer des systèmes pour qu'après la période de promotion intense, j'ai des moyens, on va dire, de donner envie aux gens de partager le livre à d'autres amis, enfin d'autres connaissances qu'ils ont. Donc par exemple, là, j'ai créé un mail spécial auteur, enfin j'ai auteur JCK, du coup, enfin une adresse mail spéciale pour les bouquins. Et du coup, je crée des correspondances avec mes lecteurs là. Donc là, j'ai peut-être déjà 200 mails que j'ai récupérés en 10 jours.
Dans le livre, t'as un truc qui dit envoyez-moi un email ou abonnez-vous.
Oui, et même les gens qui ont précommandé via ma newsletter. Du coup, j'avais déjà leur mail, mais là, j'ai leur mail d'une autre manière. Du coup, ils rentrent dans un autre funnel.
Okay.
Ce qui va me permettre de nourrir la relation et éventuellement de leur dire va mettre des reviews. Ouais. Partage-le à tes amis. Ou voilà une page Notion que tu peux partager à tes amis. Voilà une interview qui pourra peut-être bien parler de ce qu'est le livre à tes potes. Enfin, les aider à leur mâcher le travail pour qu'ils convainquent leurs potes d'acheter le bouquin. Sachant que c'est le genre de livre, je pense que si t'as bien aimé ce que j'ai écrit, t'as envie de le partager. Ouais. Parfois, t'as même plus envie que tes potes le lisent que toi, tu vas dire ouais, mais moi, ça va, ma vie, elle est intentionnelle. par contre, un tel ou ma meuf, il faut que je lui donne le livre. Tu vois, ce genre de comportement.
Faut qu'on vienne un peu sur le concept du livre, mais tu m'as fait penser à un truc, j'ai oublié. Mais bref, tout à l'heure, tu parlais de comment écrire un livre. Donc, tu disais qu'il y avait une big idea, donc vraiment l'idée maîtresse de ton bouquin. Après, tu parlais des chapitres qui peuvent être des concepts et tout. Est-ce que tu peux nous pitcher ton livre et dire en gros quelle est la grosse idée et peut-être nous donner quelques concepts
Ouais. La grosse idée, en gros, c'est... Donc, le bouquin s'appelle « Vie intentionnelle ».
Ouais.
Et il y a 7 principes. Donc, 7 principes intemporels pour ne plus subir mais choisir votre vie. La vie intentionnelle, en fait, il faut plus partir de la vie par défaut. C'est mon constat, c'était que on a tendance, peu importe qui on est, à avoir une vie que j'appelle la vie par défaut. Donc, c'est la somme des choses qu'on pense, qu'on fait et qu'on a malgré nous. Donc, c'est très difficile de toujours se dire est-ce que ma pensée elle est bonne, ma relation elle est bonne, mon comportement il est bon, etc. Et du coup, la majorité des gens sont dans une situation qu'ils n'ont pas vraiment choisi entièrement ou majoritairement. Et en gros, l'idée du livre, c'est de se dire ces deux choses. C'est qu'il y a le constat, c'est que notre époque en fait rend très compliqué le fait de sortir de cet état. Cette époque génère pas mal de problèmes dus à cet état. Donc, par exemple, la perte de sens, parce que si t'as pas choisi ce que t'as fait ou tu fais rien, en fait, tu perds vraiment du sens de ta vie. T'es pas incité à te connaître, t'es pas incité à créer des relations profondes, t'es pas incité à bien auditer ton environnement, à bien auditer toi. T'es pas incité à créer un cadre aussi de vie personnelle en fait qui va t'aider, on va dire, à être moins distrait, à être plus focus. Enfin, tu vois, il y a plein de choses dans la modernité qui t'éloignent un petit peu d'une vie intentionnelle et d'une vie qui vraiment te satisfaire. Et donc je pars vraiment de la vie par défaut avec des constats. Je propose des principes qui aident aux gens justement à s'extraire de cette vie par défaut et à aller vers une vie intentionnelle. Donc c'est pour ça que dans le livre il y a 7 principes, alors que c'est moi qui ai choisi, hein, c'est subjectif, c'est une synthèse, on va dire, de ma philosophie de vie que j'ai développée les dernières années, qui est selon moi adaptée aux problématiques et aux possibilités de notre époque. Parce que je considère, en gros, ce que j'ai dit aussi dans le livre, qu'on vit une époque qui est soit horrible, soit géniale, selon comment on la perçoit et comment on navigue dedans. Et malheureusement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de mal la vivre. Et on le voit aujourd'hui, il n'y a jamais autant d'anxiété, de dépression, de gens qui vivent par défaut. Et il y a une dernière chose c'est le pitch un peu étendu, mais en fait, ce qui est un peu pernicieux, je trouve, c'est que la vie par défaut, que moi j'appelle la vie par défaut en tout cas, c'est aussi une vie qui est occupée. C'est que autant avant, si tu faisais rien, il n'y avait rien dans ta vie, donc tu te posais des questions. Maintenant, tu pourrais passer toute ta vie qui va passer en mode TGV. Elle aura toujours été remplie, tu auras toujours eu des potes, enfin, tu auras toujours vu des gens, du moins.
Des sorties, des
activités. Tu auras toujours eu un job, tu auras toujours eu quelque chose, mais tu auras jamais vraiment questionné est-ce que c'est ça que j'ai réellement envie de faire, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose, en tout cas, que j'ai envie d'explorer. Donc c'est pour ça qu'un des premiers principes, c'est sauter du train de la vie par défaut et entrer en introspection Parce que si tu ralentis pas ton rythme d'existence et tu crées pas du temps, de l'espace, bah t'es mal en fait, quoi. C'est sûr, tu vas foncer, et puis tu vas mourir demain et tu vas te dire putain merde, c'est passé vite, quoi. Parce que t'auras pas ralenti le temps pour te poser des questions.
Toi là, t'as l'impression que le temps passe moins vite pour toi maintenant que t'es vraiment acteur de.
Moi j'aime bien jouer avec le temps. Alors c'est vrai, ça fait des trucs un peu ésotériques quand je dis ça des fois, mais notamment depuis que j'ai lu des livres comme Flow. D'un psychologue hongrois, dont je dis jamais son nom parce que j'arrive jamais à le prononcer. Pourtant, j'ai passé 13 mois en Hongrie, mais j'arrive pas à le prononcer. C'est que je me dis, comment je peux faire quand j'ai envie d'accélérer ou ralentir le temps. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école aussi, parce que quand je me tournais tellement en cours que je trouvais des moyens que le temps passe plus vite. Et maintenant, même dans mon travail, tu vois, bah, l'état de flow, par exemple, c'est un état qui est, c'est un des meilleurs états d'ailleurs de bien-être, même de bonheur. Ça a été prouvé quand tu te sens vraiment là où tu dois être, à faire ce que tu dois faire. Et que tu as un petit peu de challenge aussi, c'est que quand tu vas écrire un texte qui est assez difficile et en même temps qui te motive énormément, bah ça va te mettre dans un état de concentration, de flow incroyable. Et là, le temps, c'est un peu bizarre parce que d'un côté, ça passe très vite et en même temps, c'est lent parce que tu es bien en fait, quoi. Il y a un côté, tu es dans l'éternité et en même temps, tu es dans quelque chose qui passe vite. Et en fait, c'est ça que je cherche aujourd'hui, moi, c'est la qualité de présence. C'est Elliot Meunier, mon pote Elliot Meunier, bah, de parler de second cerveau, c'est lui qui m'a donné ce terme, qui est mieux que le moment présent. C'est un peu mon obsession en ce moment, quelle est ma qualité de présence. Par exemple, tu vois, là on discute, là je suis à fond dans la discussion. Sur une 10, tu vois, je donne au moins 8, je pense même 9. Je fais toujours des notes. bah, justement, c'est ça, le curseur, la qualité de présence. Si je me dis, ah putain, là en fait, je suis en train de penser à autre chose, ouais. Je serais à 5, 6. Je me dis, ah ok, recentre-toi, ferme les yeux, respire deux secondes et reviens. Revient dans cette qualité de présence, enfin avoir une meilleure qualité de présence.
Il y a des moments de ton quotidien que tu as éliminé parce que justement tu trouvais que tu n'étais pas présent ou que tu n'étais pas assez intentionnel dans ce que tu faisais.
Bah, en ce moment, je te parlais au tout début du podcast, là, ma vie à Paris me paraissait pas intentionnelle. Alors c'est, ouais. Mais j'en étais sûr, en plus je me suis dit, ça va être. Tu sors le bouquin sur le sujet et tu es au moment où c'est le plus difficile pour toi et du coup le plus nécessaire certainement. D'être intentionnel et c'est pour ça aussi que la vie intentionnelle, je dis toujours aux gens, c'est pas un absolu. T'es pas à 100% par défaut ou 100% intentionnel, t'es sur un chemin et t'as des régressions, t'as dans le moment t'es pas intentionnel à un endroit précis de ta vie, un domaine précis, et tu vois, j'étais hyper intentionnel, hyper aligné il y a 2-3 mois et forcément là, j'ai beaucoup bougé, enfin c'est comme tout le monde, tu vois, tu dois faire des réajustements et en fait c'est juste ce bouquin entre autres, il t'aide à avoir ce réflexe, ah ok, là c'est pas exactement comme j'aimerais, mais au moins j'ai les outils pour restructurer un petit peu cet environnement, ce mode de vie que j'aime bien avoir, et ouais, c'est juste que j'ai de la data et sur plusieurs semaines je me suis rendu compte que ça me convenait pas, et au final j'apprends sur moi aussi, je développe un petit peu, mais tu vois par exemple là c'est hyper intéressant pour moi, là je suis à Paris. Je venais aussi au-delà du livre pour voir bah, c'était quoi mon rapport à Paris, ce genre de ville, est-ce que j'ai envie d'y vivre sur le long terme, en tout cas actuellement, au moment où je suis dans ma vie, et là je vois que c'est peut-être pas le cas, mais je savais pas avant de venir. Donc maintenant ce que je me dis, tu vas parler au bout de ma pensée, c'est ok, il te reste encore un mois et demi à Paris, comment tu vis ces un mois et demi, c'est là où t'es intentionnel en fait, parce que tu vas te dire, est-ce que du coup je revis. Enfin, il y a trois états. Il y a l'état, j'y pense même pas, ça c'est la majorité des gens, et du coup je vis de manière un peu hasardeuse jusqu'à la fin, et à la fin je vais me dire, ah bah c'était bien, mais en même temps, blablabla, enfin des problèmes, et la vie, et c'est passé vite. Ça c'est étape, possibilité 1, que moi je vais refuser du coup. Possibilité 2, c'est, je veux retrouver mon rythme de type Budapest, donc avec la routine que je t'ai donnée tout à l'heure, parce que c'est comme ça que je veux vivre au maximum. C'est une bonne possibilité. Il y a peut-être une meilleure possibilité.
Donc là, tu fuis le scénario dans lequel t'es pour retourner.
Ouais, je recrée mon cadre à moi, ouais. Dans un environnement qui est quand même différent, qui est Paris versus Budapest, qui a quand même quelques différences. Et possibilité 3, que je suis en train de réfléchir en ce moment-là, bah, au moment même où on parle, en fait, ce matin, je me suis posé, j'ai écrit un peu là-dessus, c'est de se dire, bah, t'es à Paris, tu sais que tu vas sans doute partir, qu'est-ce que tu peux faire que tu ne pourras pas faire ailleurs, qui va créer une expérience de vie, bah, du coup, intentionnelle. Qui sera unique, tu vois. Ou en tout cas, qui sera différente. Et bah, typiquement, ça va être ne serait-ce que des questions du style, est-ce que j'ouvre les vannes sur les rencontres, ou est-ce qu'à l'inverse, je le fais à mode normal, où je rencontre une personne par jour maximum, enfin, ou un podcast, ou est-ce que je viens assoiffé de rencontres, tu vois, et du coup, tu vois, le choix est très différent selon ça. Et j'ai pas la réponse encore, mais c'est comme ça que je réfléchis. En tout cas, c'est peut-être plus intéressant que la réponse d'ailleurs.
Ouais.
Donc voilà, je sais plus c'était quoi la question, mais en tout cas.
Je te demandais s'il y avait des moments de ta vie ou des choses que t'as, sur lesquelles tu avais tiré un trait.
Ah ouais, c'est ça. Bah, là, c'est un bon exemple. Ouais. C'est un bon exemple.
Et c'est quoi les.
L'alcool aussi, je peux te dire.
L'alcool,
ouais.
Intéressant.
Ouais. Parce que ouais. Alcool, je me suis. En gros, après ma start-up, donc fin 2018, j'arrive à Paris, je déménage. Là, c'était pour long terme. Tu vois, je suis resté 2 ans, mais je pensais même rester plus. J'ai plus de 10 kilos en trop. Santé mentale, je me rends pas compte à ce moment-là, mais qui est quand même pas au top. Et fatigue, enfin bref, pas grand-chose qui va. Et à ce moment-là, je prends des décisions justement pour reprendre le contrôle de ma vie. Et ça a été notamment de me remettre au sport. Donc c'est pour ça que maintenant je cours tout le temps. Ça date de cette époque. En fait, je courais pas spécialement avant. Je faisais du tennis, mais je courais pas. Et j'avais arrêté la bière. En fait, c'était un peu symbolique, mais je m'étais dit, je m'étais rendu compte à Paris que la bière, c'est un truc automatique. Je voyais des gens tout le temps. Et c'était possible, même. Et là, t'es pas alcoolique au sens clinique, mais en tout cas, tous les jours, tu prends une bière. Donc tu bois tous les jours, donc c'est quand même particulier quand même. Tu vois, ça a l'air normal, mais ça l'est pas, je pense. Et du coup, j'ai arrêté la bière. Et je m'étais mis au vin. Et le vin, au final, j'aime bien, mais je vais pas en boire tous les jours. Donc j'ai réduit ma consommation d'alcool. Et tu vois, j'ai commencé à restructurer comme ça. Et c'est un exemple, en fait, d'un moment où il y a quelque chose qui te va pas. T'as une mini crise. Tu fais des ajustements. Enfin, tu audites un petit peu ta situation. Et après, tu mets des actions en place pour t'améliorer dans ta vie ou avoir une vie qui te satisfait plus. Et c'est exactement du coup le concept du bouquin. Au final, on peut recouper parce que dans le bouquin, t'as un personnage que j'appelle le philopreneur, qui est un peu l'archétype de la vie intentionnelle, au sens où il est en chemin du coup vers cette vie-là, qui n'a pas de destination finale. Et pour y arriver, il a deux caractéristiques majeures, le côté philosophique, justement, sur sa philopreneur et entrepreneurial. Côté philosophique, c'est le questionnement. C'est je m'audite, je m'examine. Et le côté entrepreneurial, c'est je suis en mouvement, j'agis, je crée des projets. Et moi, je vois pas l'un sans l'autre, en fait. Et c'est vrai que souvent dans la société, c'est toujours une mauvaise valise, ça. Tu vois beaucoup de gens, en fait, soit ils sont intellectuels et tu vois, ils sont dans des chambres à écrire des trucs. Ils sont pas dans l'arène. Soit t'as des gens, ils sont dans l'arène, mais ils se tapent la tête contre les murs et tu vois, ils vont pas très loin au final. Et je pense que, une bonne manière, en tout cas, pour mener une bonne vie, selon moi, et encore, ça c'est complètement subjectif, c'est de réussir à allier les deux. Alors, tu auras toujours une prédominance, hein, naturelle ou pas, selon tes phases de vie. Moi, je sais qu'il y a des moments où je suis plus dans l'action, des moments où je suis plus dans la réflexion. Mais j'aime bien, en tout cas, avoir le cocktail un peu des deux, tu vois. Et c'est comme ça que, du coup, est né le concept du philopreneur, il y a 3 ans, là, qui est le personnage du livre, enfin, un des personnages du livre.
T'as d'autres personnages, t'as Stéphane. Ouais.
Stéphane.
Qui est dans le cliché de la vie par défaut.
Ouais.
Mais du coup, ce que tu évoques dans le livre, c'est qu'en fait, il y a un déclic. Tu t'expliques souvent que le début de la vie intentionnelle est déclenché par un déclic.
Ouais, une crise.
Une crise, ouais. Mais une crise, ça sous-entend le fait que tu n'as pas le contrôle dessus. C'est quelque chose qui te tombe dessus et du coup, tu as un déclic parce que tu fais une dépression, tu as un burn-out.
Ouais.
Stéphane, je ne veux pas spoiler, mais il se met à pleurer à un moment donné et tout.
Mais les deux pleurent, hein. Achille aussi, il pleure.
J'y suis pas encore.
T'en es pas encore? Moi, c'est pas du spoil en vrai, t'inquiète.
Mais tu vois, il se met à pleurer d'un coup et c'est le moment qui fait office de déclic. Est-ce que tu as des conseils peut-être pour déclencher le déclic avant d'attendre la crise?
C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je pense que les crises sont. J'ai du mal à le voir sans crise en fait. Après, c'est pas grave, les crises, ça fait partie de la vie, c'est pas obligé d'être des méga crises. Mais toi, les stoïciens, ils vont dire par exemple, c'est la seule chose qu'on contrôle, sont nos réactions aux événements.
Ouais.
Donc, de toute façon, c'est du chaos, c'est du mouvement, donc il y a des événements, il y aura des mauvais événements, il y aura des décès, il y aura des ruptures, il y aura tout ce que tu veux. Donc, tant mieux, tu vois, limite. C'est au moins, ça te fait avancer. Là maintenant, la question, c'est qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu fais de ces crises, de ces moments qui sont des carrefours, comme j'appelle ça, comme des carrefours de vie aussi. Et t'as vraiment ceux qui s'effondrent quand il y a des crises, ce qui peut arriver à tout le monde. Hein. D'ailleurs, c'est pas genre ceux qui s'effondrent tout le temps et ceux qui s'effondrent jamais. On peut s'effondrer parfois, mais idéalement, dans une crise, faut la voir comme quelque chose au maximum de positif. Et souvent, a posteriori, on est tous d'accord, la majorité des gens en tout cas, je pense, pour se dire que c'est les épreuves, les crises, les obstacles qui ont eu le plus d'impact positif à long terme sur notre vie. Donc quand on arrive à rationaliser un petit peu ça, quand on, bah, c'est con, mais c'est la sagesse, ça s'acquiert aussi avec le temps. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça que, alors vieux ne veut pas dire sage, mais plus t'es âgé, plus t'as quand même normalement de data qui te permettent, si tu l'utilises à bon escient en tout cas, de dire tu peux gérer les crises. Mais ouais, je pense que les crises sont quand même un peu obligatoires. Et que c'est une bonne chose en fait de vivre des crises. C'est le parti de la vie. Quoi.
Toi, du coup, c'était quoi ta pire crise? Peut-être que tu en as parlé tout à l'heure quand tu étais au lycée.
Oui, il y a la crise du lycée. Bah, après, je l'ai écrit un peu dans le livre. C'est une combinaison. Toi, j'ai eu mes grands-parents qui sont décédés coup sur coup. Genre, d'où ma seconde. Je perds confiance en moi et c'est là en fait où je me mets en mouvement pour trouver finalement le poker. Ça aurait pu être d'autres choses. Ça, c'était une crise assez importante. Et j'ai eu une autre crise beaucoup plus tard, en 2021, donc il y a 2 ans, qui m'a conduit à partir à l'étranger. Alors pas que pour ça, mais il y a eu un ensemble d'événements dans ma vie perso et pro au même moment qui m'ont fait que je me suis vraiment pas senti très bien pendant 3-4 mois. Je me suis remis à lire la philosophie, notamment le stoïcisme à ce moment-là. Et j'étais à 30 ans, j'avais 30 ans il y a 2 ans. J'avais jamais fait des vrais voyages. J'avais voyagé dans les pays un peu limitrophes à la France, mais j'étais jamais parti. Et là, j'étais dans une situation où je pouvais le faire. Donc, je me suis dit, c'est le bon timing, tu peux y aller. Et au final, ce voyage et cette étude de la philosophie a été une thérapie pour moi, qui, en réalité, est le point de départ même du livre. Parce que très vite, en fait, j'ai rencontré des gens et j'ai commencé à parler un peu de l'envie d'écrire un livre. Et clairement, ouais, pour moi, le processus du livre, il a commencé quand je suis parti, même si je ne savais pas encore que j'allais écrire un livre.
Et tu dis qu'il y a eu tout un processus d'apprentissage de la philosophie. Tu t'es entouré de gens qui maîtrisaient mieux le sujet. Comment ça s'est fait? T'es parti où déjà?
Alors je suis parti avec Ulysse. Au début, on avait fait un co-living en Géorgie.
Ouais.
Après, moi, je suis resté 2 mois.
Tu t'es donné le challenge de vivre comme un
stoïcien. J'ai fait 2 mois. Alors, à la base, c'était 1 mois, je l'ai reconduit sur un deuxième. Premier mois, c'était dans un co-living avec des créateurs français. T'avais Ulysse, t'avais Thibault Louis, c'est connu très connu sur LinkedIn. Et d'autres, peut-être un peu moins connus, en tout cas sur Internet. Et on a fait 1 mois. Moi, je faisais mon challenge alors qu'on était dans une baraque à 8. Les gens savaient, mais en même temps, c'était marrant parce que du coup, je disais pas forcément ce que j'étais en train de travailler. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que, alors certes, je suis quand même introverti, mais là, j'étais vraiment très introverti. En plus, j'étais un peu en recovery, entre guillemets, à me remettre un peu de mes mois pressants qui avaient été compliqués. Donc, t'as des gens, en fait, qui m'ont vu pour la première fois il y a 2 ans, quand on a presque bugué, quand ils m'ont revu une deuxième fois, parce que je suis quand même assez différent de ce qu'ils ont vu de par la situation. Donc il y a eu 1 mois, après j'ai fait 1 mois tout seul dans la capitale Tbilissi, en Géorgie toujours. Et donc voilà, pour ça c'était une première phase, j'avais documenté, j'ai fait une vidéo YouTube à l'époque sur ça, chaîne que j'ai arrêtée depuis, mais j'espère la reprendre un jour, mais en vrai j'avais lancé une chaîne à l'époque. Et quelque chose comme 6 mois après, début 2022, j'ai eu envie, donc comme il y a le projet livre qui commençait vraiment à être dans ma tête, c'était que j'avais annoncé que je vais écrire un livre, j'avais des craintes par rapport à ma capacité à structurer ma pensée. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis dit j'ai envie de progresser en philo mais aussi en méthodologie d'écriture. Et donc j'ai recruté 3 profs pour des raisons différentes reliées à la philosophie, et j'ai eu je me suis fait un petit programme de 6 mois où j'avais des cours toutes les semaines et des choses à rendre à certains profs, parce que c'est une méthodologie, c'était pour pouvoir apprendre à faire des dissertes, des commentaires de textes et des essais philosophiques, et chose que j'avais jamais fait de ma vie, vu que j'étais pas allé à la fac, ou du moins quand j'y étais, je rendais pas mes rendais pas mes devoirs. Donc j'étais un peu en mode étudiant, et c'est vraiment parce que j'étais dans des cafés à Budapest ou en Turquie, parce que je suis allé aussi à Istanbul et à Budapest, entouré d'étudiants, et en fait je faisais la même chose qu'eux, sauf qu'on avait 10 ans d'écart. Ouais. Donc c'était marrant.
Et comment tu les as recrutés
Moi, mes abonnés, nos utilisateurs, des contacts de contacts.
Ok.
Contacts d'abonnés.
Et c'était quoi le format avec eux? T'avais un cours par semaine? Ouais. Ou...
Alors il y en avait un, c'était sur les notions de philosophie, c'était tous les mercredis 1 heure.
Ok.
T'en as un, c'était toutes les semaines 1 heure et demie, une discussion philosophique sur un sujet contemporain et ramener un peu de philo. Lui, il m'a amené du concept. Soit il disait, je parlais de quelque chose. Ah, mais ça, tu vois, justement, il y a un tel, il parle de ça. Ça, ça permettait d'avoir côté dynamique et en même temps avoir de la matière qui m'apportait de la connaissance. Et le troisième, c'était du coup 2 fois par semaine. C'était avec celui que je travaillais sur des commentaires, des essais, tout ça. C'était un jeune, mais pour le coup, c'était un étudiant de sociaux qui était super. et qui est passionné de philosophie depuis qu'il a 12-13 ans. Enfin, tu vois, il avait 24 ans, c'est la moitié de sa vie qu'il faisait de la philo, qu'il la lisait, qu'il en écrivait. Et là, c'était le plus intense parce que j'avais des devoirs entre les sessions.
Et t'avais assez d'argent pour te payer ces trois profs.
Ça coûte pas très cher en vrai. Par rapport. Je te donne même les prix. Hein. J'ai dû payer 1 600 € pour 20 séances avec le prof sur une notion, ce prof agrégé. C'est un des meilleurs profs. C'est un des meilleurs profs de philo, tu vois, à Paris.
Ok.
Et entre guillemets, il coûte que 1 600 € pour 20 séances.
Tu dis qu'il est dans le top 1%.
Ouais.
Mais au final, ça coûte pas si cher.
Si tu compares à mes coachings, oui, voilà. Ça n'a rien à voir.
Ouais. Mais quand même, mine de rien, tu devais payer ces cours-là. En plus, tu devais payer ton logement, plus
le
co-living, tous ces trucs-là. Mm. Comment tu gagnais de l'argent à ce moment-là?
Le coaching.
Le coaching.
Principalement le coaching. Ouais.
Okay. Et juste tes offres de coaching, tu les prices comment? On en a parlé vite
à la tête du client. Non, c'est pas vrai. Mais en gros, j'ai. C'est 3 mois, c'est 4 000 € et 6 mois, c'est 7 000 €.
Et donc, comme tu disais, il y a du one-to-one, il y a des devoirs à rendre, il y a des sessions. Okay.
C'est ça. Ça n'a pas trop changé.
Moi, demain, tu connais un peu mon audience, mon expérience passée, etc. À ton avis, je price comment si je fais un coaching pour se lancer, par exemple, sur les réseaux sociaux ou j'en sais un pour créer un compte.
Ça dépend, c'est qui ta cible, en fait.
Si elle n'a pas beaucoup d'argent.
Est-ce que le coaching est la bonne offre, alors?
Probablement pas.
Il vaut mieux faire un produit, je pense, ou des coachings. Il vaudrait peut-être mieux avoir un peu les better calls, un truc un peu comme ça, toi, un produit d'entrée, je sais pas, 200-300 €, les gens peuvent avoir, ou une formation à. Tu vois, si c'est du B2C avec des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens, je pense que c'est plus smart d'avoir un. Parce qu'un service, c'est quand même pas mal pour commencer. Mais du coup, ça serait la question, ça serait quoi le bon service à lancer pour des gens qui n'ont pas énormément de moyens, qui ne vont pas lâcher 5000 balles, je pense que je ferai un truc de style 3-4 calls pricés avec un. Tu détermines à l'heure, je sais pas, 250 € par exemple. Enfin, 1 000 € 4 calls, disons. Et tu les amènes d'un point A à un point B.
Avec des devoirs
en ce que fait mon frère en ce moment sur LinkedIn.
Okay.
Il coach des gens. Qui développe ça même un peu plus loin, mais la base qu'il avait faite, c'était 4 calls, et tu passes de je n'ai pas publié sur LinkedIn et je ne comprends rien à LinkedIn à j'ai ma ligne édito, j'ai mon profil, je vois un peu les dynamiques et je suis en mouvement pour écrire mes premiers posts.
Okay.
Et du coup, il paye pour les 4 calls. Et je crois qu'il paye 1 000 €, je crois.
Okay. C'est un pricing fair.
Ouais, c'est pas mal. Et c'est ça ce que. Justement, Danco, un créateur que j'aime beaucoup aux US, un gros solopreneur, il appelle la. On va le traduire, c'est l'offre minimum viable, ou la MVO minimum viable offer. Et c'est ça, c'est. En gros, il te dit, tu fais pas chier, 3-4 rendez-vous, un prix, 500 et 1 000 $ pour commencer, après tu feras monter les prix. Mm-hmm. Et au moins, t'es accessible pour la plupart des gens qui sont prêts quand même à investir 500 €, si ça leur importe vraiment ce qu'ils veulent faire. Et après, pour des audiences B2C qui sont pas les CEO de start-up, les gens fortunés, je pense que c'est plus des produits après, tu vois. Mais c'est vrai que c'est jamais facile, hein. C'est pour ça que la plupart des gens sont sur du B2B en vrai, hein, parce que au moins, où est l'argent en fait? C'est ça que la question à se poser à un moment, c'est quoi.
En B2C, c'est très dur.
Ouais.
Surtout sur les réseaux sociaux où tu peux te lancer et potentiellement pendant très longtemps pas gagner d'argent.
Le truc, c'est que B2C, il faut que t'aies une capacité à faire du volume de fou. Et ça veut dire que toi, en tant que créateur, que tu sois un créateur presque mainstream.
Ouais.
Tu vois, par exemple, en France, on prend beaucoup le cas des États-Unis, du coup, de Justin Welch, qui lui va plutôt aider les créateurs à performer sur LinkedIn ou avoir un bon système de contenu. Donc, c'est du B2C. Et du coup, tu pourrais dire, OK, c'est trop bien. Son modèle, il y a deux produits à 150 $ et il les vend, c'est cash machine. Sauf qu'il a un trafic monstrueux qu'il amène sur ses produits sur LinkedIn, parce qu'il les vend sur LinkedIn majoritairement, dans la page, sa page de profil. Et en France, quasi personne ne peut faire ça. Tu vois, je parlais avec les frères Rivol, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est deux gars qui sont dans le sales, le marketing. Ils s'appellent le Sales Lab. Ils sont excellents. C'est un peu, ils sont un peu dans la vibe Justin Welch. Okay. Sauf que ce qu'il me disait, c'est non, on peut pas faire comme je suis en âge, parce que certes, on fait des millions de vues sur LinkedIn, mais on fait pas 500 millions de vues, enfin 100 millions de vues dans l'année.
Ouais.
Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un produit qui est plus cher. Ils compensent. Ils se disent on vend moins, mais du coup, on propose une offre plus quali, plus suivie aussi. Du coup, tu rentres, tu payes pas qu'un produit. Enfin, tu payes pas qu'un produit. Il y a un service derrière, il y a un onboarding, il y a des calls. Ils changent souvent le modèle, mais des fois, c'est un peu des cordes, j'ai l'impression. En tout cas, il faut rentrer des gens. Il y a 30 places pour rentrer dans le Sales Lab. Et eux, du coup, ils s'adressent à des particuliers, mais qui ont des envies business. Mais c'est pas ils s'adressent pas à des CEO qui ont levé 50 millions.
Ouais. Clairement. Et je pense que t'as beaucoup de créateurs qui se mettent une barrière et qui se disent, j'ai 20 000 abonnés. C'est trop peu, je suis pas légitime pour lancer un accompagnement, un coaching, etc. Ouais.
Non,
on a des bons exemples de créateurs.
Ouais.
Tu vois, je pense à Antoine BM, qui a une audience
maintenant,
importante, mais qui est pas non plus énorme ici, mais pourtant qui a un business au million d'euros.
Il a quand même plus de 100 000 abonnés sur YouTube, mais donc c'est quand même gros, tu vois. Mais bah, ça dépend dans quel milieu tu te places, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a lancé tout de suite, en fait. Et c'est ce que dit Danco également, c'est les pros. En fait, t'as même 300 abonnés, lance un produit, en fait.
Ouais, exactement.
Je dis ça moi-même parce que j'ai toujours pas de produit. Hein. Et en fait, comment dire ? Ouais, il faut lancer des produits. Parce qu'en fait, plus du service d'ailleurs. Le minimum viable offer, là, c'est trop bien parce que même si t'as pas d'audience, t'as quand même un background. C'est quel problème toi t'as réussi à résoudre ? Comment tu le packages dans 4 calls ?
Juste, tu fais passer du temps,
et l'autre il paye 1000 balles et tu testes un produit comme ça, enfin un service, et t'en fais un produit demain si tu veux. Mais il faut aller très vite pour lancer des produits, des services, parce que de toute façon, on va en parler aussi de Peter Levels, tu vois, c'est un très bon exemple. Le mec a fait 80 projets les dernières années et il dit qu'il n'y en a que 5 qui ont gagné de l'argent, enfin qui ont été rentables en tout cas.
Très rentable.
De toute façon, on va être très rentable pour le coup. Oui, mais c'est parce qu'il en a fait 80 qu'il en a 5 qui sont très rentables.
Ouais,
s'il essayait de les lancer parfaitement, il aurait attendu, il n'en aurait pas vendu la moitié. Hein.
Ouais, t'as raison, faut absolument lancer un truc. Et même, je pense, au-delà de lancer un produit, faut très vite penser à la monétisation de son contenu.
Ouais.
Je pense que t'as plein de créateurs qui attendent d'avoir...
Tu veux dire plus sur la partie sponsoring, ce genre de choses ?
Ouais, même sponsoring, juste activer les monétisations, aller chercher des sponsors, des partenaires, même juste peut-être du gifting. Enfin, en fait, quand t'as une audience, même si elle est petite, et surtout si t'es niché, t'as un levier qui intéresse plein de marques. Je te donne cet exemple. Nous... à l'époque, avec Max, quand on était tous les deux sur le compte, on avait une barrière où on se disait non, mais on peut pas aller chercher des sponsors et tout. Et on s'est fixé le challenge. On s'est dit, bah, tu sais quoi, maintenant, laisse tomber la barrière mentale, on tente. Et je crois qu'en, je sais plus, un mois, on avait signé 2 ou 3 deals, tu vois. Alors que pendant les 10 mois d'avant, on se disait que c'était impossible.
Ouais. Dû à la taille d'audience à l'époque, des choses
Ouais, et puis ouais, t'as un syndrome de l'imposteur. Mmh. Surtout que nous, notre audience, elle est trop cool parce que il y a plein de créateurs de contenu. Donc, c'est une niche qui est très précise.
Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, complètement.
Après, t'as évoqué plein de trucs. J'aimerais bien qu'on vienne sur ta vie de joueur de poker. mais avant, j'aurais envie de te poser une question. T'as eu plein de salariés chez Fetch. T'as géré une flotte de livreurs.
Centaines de livreurs,
Des centaines de livreurs. Donc, t'avais vraiment ce job de CEO qu'on imagine, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'humains à gérer. Aujourd'hui, t'es tout seul. Tu vas dans des cafés parce que tu dois plus être tout seul pour bosser.
Ouais.
T'as mis complètement de côté cette partie équipe. Et t'as envie d'être solopreneur maintenant, ou c'est quoi ta... Comment tu vois les prochaines années par rapport à ça?
Alors, on me demande souvent, est-ce que tu remonteras un jour une startup ? Alors, j'aime pas dire jamais, j'aime pas dire non, parce que j'ai pas envie de me fermer la porte. Là, je suis dans une phase de vie, clairement, où ça me convenait mieux. Enfin, j'étais dans une phase de vie où ça me convenait mieux de ne pas avoir de salarié, de faire mon voyage, etc. Là, j'exclus pas, mais je le ferai pas sous un horizon de 2-3 ans. Je pense que je me vois pas partir dans une aventure qui fera que dans 3 ans, je te parle et j'ai 40 employés, tu vois.
Okay.
Enfin, j'étais monté à 30 sur Fetch, disons entre 20 et 40 employés. C'est pas le genre de modèle que j'ai envie de lancer là. Par contre, de collaborer et même d'avoir peut-être une équipe avec moins de 10 personnes ou moins de 5-6 personnes, il y a quand même des différences. Disons même avoir un petit business avec 4-5 personnes qui travaillent avec moi, je suis pas fermé à ça aujourd'hui. Donc là, je suis en train de réfléchir à des choses que j'aimerais lancer. Mais clairement, donc. Ouais, donc la question c'était ça, je t'ai répondu, mais oui, les vies sont très différentes entre avoir des gens au quotidien Et ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous pensez qu'un produit c'est facile, attendez d'avoir des humains et vous allez voir que le vrai game, quand vous avez une boîte ou une startup, tu vois, c'est. Alors certes, c'est difficile d'avoir le product market fit, c'est difficile d'avoir de la croissance sur un produit au début. Mais en fait, c'est un jeu simple par rapport au jeu de comment tu passes de tes 3, 4, 5 à 20, à 50, à 100, à 300, à 1000. C'est là où ça devient dur, la boîte, vraiment.
Je trouve que c'est à chaque fois des métiers différents. Moi, par exemple, je suis très à l'aise pour partir de 0 aller jusqu'à 1. Mmh. Et je pense que de 1 à 100, c'est le job de quelqu'un d'autre. Et de 100 à 10 000, c'est le job de
quelqu'un d'autre. C'est très juste. Et ça crée plein de problématiques. Parce que quand tu montes une startup, par exemple, t'as des associés souvent.
Ouais.
Personne ne sait s'il est capable de se scaler et d'apprendre chacune des étapes.
Ouais.
Le plus probable, c'est qu'aucun des fondateurs soit capable. Hein, c'est, statistiquement, c'est ça. Après, le deuxième plus probable, c'est qu'il n'y en ait qu'un sur les trois qui va y arriver. Ça veut dire qu'on en fait quoi des deux autres ? C'est pour ça que tu vois souvent des gars qui finissent par sortir aussi, hein, des boîtes. Alors, c'est toujours déguisé. Hein, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, les gens ils vont dire il est sorti parce qu'il voilà, voulait voir d'autres horizons. Ouais. Et c'est peut-être juste fait dégager. Alors, ouais. Peut-être de manière correcte, mais en tout cas, ça existe. Hein. Moi-même, j'avais un associé que j'avais viré pendant Fetch. Donc, aujourd'hui, on en parle très peu. Je ne le mets même pas en avant, tu vois, dans les communications aujourd'hui, de comment j'en parle de l'époque. Mais il y en a un qui, à mon sens en plus, ça qui est difficile, qui n'avait pas atteint le niveau qu'il devait atteindre pour passer l'étape d'après.
Ouais.
Et du coup, c'est moi qui avais été le voir et dire on va devoir arrêter cette collab.
J'imagine que ce n'est pas évident comme discussion.
Non, on ne s'est pas beaucoup reparlé depuis. Forcément. Bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des pots cassés quand tu montes une boîte. Mais donc, mes vies sont très différentes, clairement.
Et tu as évoqué vite fait, tu nous as balancé un spoiler, tu as d'autres projets.
Ouais.
C'est quoi celui qui te hype le plus ?
Ouais, alors, j'en ai deux. Après, je ne sais pas si je vais réussir à faire les deux en même temps.
Ouais.
Là, je te disais, je suis en plein dans le lancement et promo du livre, donc ma tête est quand même pas mal encore dans le livre. Il y en a un qui est plus autour de la création de contenu, d'ailleurs. Notamment sur tout ce qui est... LinkedIn, mais pas forcément que LinkedIn, mais je suis en train de regarder, je me suis pas mal intéressé au ghostwriting récemment. Je sais pas, j'aimerais creuser en fait une forme de modèle d'agence, en fait, utiliser mon réseau. J'ai un bon réseau dans notamment les VC, les CEO, les créateurs de contenu aussi, les gros solopreneurs. Donc, je suis en train de voir quel est le produit que je peux proposer, enfin, le service que je peux proposer à la bonne cible qui me correspond bien. Et là-dessus, je suis pas fermé à avoir des salariés, tu vois, un horizon, un an, tu vois. On regarde aussi avec mon frère, on sait pas si on va le faire ensemble, mais il y a un monde où on crée un business ensemble dans ce que je viens de dire là.
Okay.
Ça, c'est une première partie plus service. Et après, sur la partie plutôt soloprenariat, qui peut s'étendre après avec des collaborateurs, je suis plus en train de regarder parce qu'on parlait de réanoïder tout à l'heure, de voir comment moi, avec ma personnalité, avec mon point de vue de la philosophie antique, notamment le stoïcisme, mais peut-être pas que, je peux proposer un média et des produits autour de ces idées. Et ce qui me permet en fait d'être cohérent aussi avec la vie intentionnelle, qui au final est très proche, tu vois, dans l'esprit un peu, cet esprit antique, cet esprit travail sur soi, étude de soi, etc. Donc ça m'enthousiaste pas mal. Toi, ne serait-ce que m'imaginer écrire des mails régulièrement sur ces sujets, prendre une citation... je sais pas, de Sénèque, et puis de développer autour de celle-ci, c'est dans ma tête en ce moment. Ouais.
Et ça, si tu veux le lancer, tu fais quoi ? Tu pars de ta base actuelle ou non. Tu from scratch ?
Alors, un peu les deux, mais il y aura, je pense, une autre marque qui sera créée.
Ok.
Alors, je dis ça, c'est tout ça est poétique. Hein. Mais c'est intéressant de faire l'exercice.
Ouais.
Après, il y a deux manières de le lancer. Est-ce que tu te concentres sur le média en premier ou est-ce que tu te concentres sur le produit ? J'ai plus envie, comme j'ai jamais fait dans ce sens-là, de commencer par le produit. Et de me dire, je peux rapidement lancer quelque chose qui me permettra de faire de l'ads très vite vers une newsletter ou un gros lead magnet pour choper une base d'email et pas forcément partir full focus sur Insta ou TikTok.
Ouais, tu prends le funnel un peu à l'inverse.
Je le prends à l'envers. Il faut faire les deux, certes, mais je trouve que ça peut être une bonne approche en fait, de partir du produit et de tester des produits. Et ça me permettra d'apprendre à faire des produits, parce que j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. À avoir un système de. Enfin, un funnel avec des ads aussi. Donc, ça va m'obliger à développer des compétences que j'ai pas. Et pareil, tu vois, sortir de LinkedIn, parce que moi j'étais principalement, voire exclusivement sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, enfin 1 an et demi. Et pareil, après, du coup, d'aller sur Insta, TikTok, YouTube, beaucoup plus de vidéos. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire l'an prochain, là.
Okay.
Mais après, c'est le problème, c'est le bande passante. Dans quelle mesure je vais savoir faire les deux? Il n'y a pas trop de synergie en plus pour le coup, là. Donc voilà.
Je passe du coq à l'âne, mais j'ai trop envie de savoir à quoi ressemblait ta vie de joueur de poker.
Ouais.
Donc la journée, tu avais tes cours, t'en séchais une grande partie, je pense.
Ouais, j'allais beaucoup au cinéma.
T'allais beaucoup au
cinéma. J'adore le cinéma. Et j'ai jamais vu autant de films de ma vie que quand j'étais étudiant.
Et après, le soir, tu jouais en ligne sur
les après-midi un peu aussi.
Les après-midi.
Ouais. En fait,
tu participais à des vrais tournois. Pas
qu'on
au moment
écoute ça, mais...
T'inquiète, à ce stade, au bout de 2 heures
pas.
De podcast, on a perdu.
Non, mais j'allais pas en cours, je me disais même, tu vois, j'avais 18 ans, je disais que j'y allais, puis finalement, j'allais pas. Je faisais des fois la séance de cinéma de 11h ou de 13h. Je rentrais chez moi, enfin, chez ma mère, du coup, j'habitais chez elle. Et je commençais on avait ça grindé, à jouer.
Tu jouais avec de l'argent réel?
Oui, de l'argent réel, ouais, sur les sites. Alors, pour l'histoire, j'ai commencé à 16 ans, donc j'étais mineur.
Avec le compte de maman?
Même pas avec mon compte, pas avec un faux compte, une fausse identité.
Ah ouais?
Parce que, alors, pour la remise en contexte, en fait, c'était avant que ça soit, on va dire, harmonisé, structuré et, comment dire, l'État n'était pas derrière, en fait. Il n'y avait pas de site.fr, c'était sur des sites internationaux qu'on jouait.
Ok, c'était le
Far West. C'est avant 2010. Et du coup, en fait, ils ne checkaient même pas ta carte d'identité quand tu allais t'inscrire. Okay. Donc j'avais une fausse identité, un faux nom, une fausse nationalité, enfin faux tout, tu vois. Mais la problématique de j'avais pas de carte bancaire. Donc ce que j'ai dû faire, c'est participer à des tournois gratuits qui rémunéraient les premiers du tournoi, on va dire, mais sur des sommes modiques. Et j'ai eu la chance d'en gagner plusieurs sur un laps de temps très court, un mois après de m'être lancé. Et du coup, j'ai eu un petit capital de 100-150 dollars pour commencer à jouer.
Okay.
Et c'est ce capital-là que j'ai jamais eu besoin de mettre de l'argent de ma poche, en fait.
Incroyable.
Je suis parti de ça, en fait.
Et c'est quoi le plus gros tournoi que t'as gagné?
Ou le plus gros prix? Alors, j'étais pas joueur de tournoi, donc j'ai pas eu des sommes. Je jouais en cash game.
Cash game, c'est quoi?
Tournoi, en gros, tu payes un prix d'entrée, supposons 100 euros. On donne des jetons, et tant que t'as des jetons, ça continue. Et on joue tant qu'il n'y a plus qu'une personne.
Ok.
Ça, c'est le tournoi. Et cash game, c'est tu rentres et tu sors de la table quand tu veux.
Okay.
Il y a une mise un peu standardisée. Tu vois, c'est une table qui va coûter, je sais pas, 200 euros. Et tu rentres, tu sors quand tu veux. C'est un jeu qui te permet de pas geeker 8 heures pour savoir si tu vas gagner ou pas le tournoi.
Ouais,
et moi, en fait, j'aimais pas trop jouer pendant 5-6 heures au poker. Donc, ça m'allait bien. Et donc, ma vie, c'était ça. C'était donc d'aller, semblant d'aller en cours ou un petit peu en cours, aller au cinéma, voir un ami, rentrer, jouer un peu au poker. Et si c'était le week-end, après, des fois, je sortais après le soir. Ou je faisais des soirées poker et je jouais jusque très longtemps, enfin, jusqu'à pas d'heure. Donc voilà. Et il y avait aussi, petit aparté, mais rapide, mais il y avait aussi pas mal de, une communauté de joueurs de poker. Je faisais des forums. Et je faisais aussi des fois, c'est la première fois de ma vie que je suis allé à Paris, par exemple. On va dire tout seul. Genre à 18 ans. C'était parce que j'avais été dans une coloc de joueurs pendant une semaine, par exemple. On prenait des apparts. Je sais même pas s'il y avait Airbnb à l'époque. En tout cas, on prenait des apparts, je sais pas comment. Et on était là avec nos ordis. Il fallait venir avec son ordi et tout. Ordi portable. Et on jouait dans des apparts ensemble, quoi.
Et c'est quoi ton plus beau souvenir de cette période?
En vrai, je pense que c'est souvent ça, hein, mais c'est les premiers tournois gagnés. Hein. Le premier tournoi que j'ai gagné, alors attends, c'est le plus petit, hein, j'ai dû gagner, je crois que c'était 50 ou 100 dollars, le vainqueur, c'était les tournois gratuits, là.
Ouais.
Et alors après, oui, ça m'arrive de gagner plusieurs milliers d'euros, j'ai pas donné les montants, mais je crois qu'en tournoi, je crois que c'était 3 ou 4 000 euros, la plus grosse somme, c'était des petites sommes, parce que je jouais pas trop de tournois, donc j'ai pas joué des énormes tournois. C'était en cash game, je gagnais de l'argent. Mais là, c'est ce petit tournoi-là gratuit que j'ai gagné à 16 ans, tu te sens trop comme un ouf après.
Ouais.
T'as été premier sur 2000, tu finis après 7 heures de jeu.
Ouais, tu dis que t'es contre des gars de 50 ans.
Puis tu crois trop fort. Et puis le lendemain, alors c'est trop bien, par contre, le poker, ça te rend humble parce que le lendemain, tu rejoues le même tournoi.
Boom.
T'es éliminé au bout de, je sais pas, 30 minutes. Et là, t'es derrière ton ordi, tu dis, ce sera pas tous les jours la fête, en fait. Donc, très bon jeu pour t'apprendre un petit peu à accepter.
Tu continues de jouer un peu ou pas?
Non. Pas, en tout cas, pas sérieusement.
Même avec des potes et tout.
En vrai, les soirées poker, ça me saoule un peu des fois parce que en fait, quand des gens savent que t'es un ancien pro ou un ancien très bon joueur, en fait, t'as un peu l'attraction.
Okay.
Et, Et en fait, t'as rien à gagner, j'ai l'impression. En fait, si tu gagnes, c'est normal. Si tu perds, on t'affiche.
Ouais.
Et en plus, les sommes sont petites. Enfin, tu vois, je préfère limite qu'on fasse des jeux que moi, je connais pas, en fait.
Okay. Catan.
Ouais, des nouvelles variantes, ouais. Ou des variantes de poker. Ça, okay. C'est, ça, si vous voulez m'inviter à une soirée, je joue pas au No Limit Hold'em. Parce que c'est relou, parce que je connais par cœur. Et du coup, pour te répondre, j'ai rejoint un peu en 2019. Mm-hmm. Sachant que j'ai pris ma retraite, entre guillemets, en 2013-2014. Et à Paris, ils avaient ouvert les clubs de jeux. Qui sont des endroits dédiés aux jeux de cartes et au poker. Et c'était juste avant le Covid et j'avais fait des tournois. J'avais fait des beaux tournois à 500 euros l'inscription, enfin des tournois cool. Et après j'ai arrêté parce qu'il y a eu le Covid. Quoi.
Okay. T'as pas croisé Marco Molli du coup?
Non. Okay. C'est un pote à toi?
Non, c'est.
C'est le
mec de l'arnaque au carbone.
Ah, oui, je vois très bien.
Il traînait pas mal apparemment au club de. Juste à côté, place de Clichy.
Le Clichy, ouais. Oui. À Clichy, il y en avait des histoires, mais apparemment. Mais...
Apparemment. On arrive sur la fin, il nous reste quelques minutes, mais je voulais te demander, question un peu bizarre, mais est-ce que, déjà, c'est quoi le plus gros achat que t'es fait récemment? Sur les 2-3 dernières années, là où t'as dépensé le plus d'argent?
Ouais. Voilà, c'est sûr parce que j'ai pas de genre de dépense, genre une voiture, tu vois. J'ai pas le permis, donc je vois pas. Grosse dépense ces dernières années? Je sais pas, il faudrait que je recherche, mais je pense que c'est une salle des formations, un truc comme ça.
Sinon, coaching ou formation. C'est quoi le truc sur lequel t'as dépensé une petite somme, centaines d'euros ou un peu moins,
ouais.
Qui a eu le plus d'impact récemment, qui t'a vraiment marqué. Moi, je te donne mon exemple. Vas-y. J'ai acheté des vraies boules qui sont en silicone avec des filtres qui conservent la fréquence audio et que tu peux changer en fonction du nombre de décibels. Je m'en sers tous les jours. Dans le métro, même quand tu bouges un petit peu, dans le train, dans l'avion, c'est incroyable.
Moi, je te répondrais presque mon Kindle, hein. Ouais. Après, ça fait longtemps, mais tu vois, ça m'a tellement aidé. En voyage, c'est obligatoire. Et en fait, vu que c'est connecté à mon second cerveau, c'est quand je surligne les textes, c'est mon outil le plus important. Après, je te dirais les casques anti-bruit, le casque Bose. Bah,
ouais.
Je crois qu'il y en a même des mieux maintenant. Ouais. Mais en tout cas, le casque Bose, je l'ai depuis. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais depuis quelques années, je les ai. Si je le perds, je vais l'acheter direct, tu vois. Pardon.
Okay.
Un autre, ou peut-être un nouveau format, parce que apparemment, il y a des meilleurs modèles maintenant. Mm-hmm. Donc c'est ce genre d'achat que j'ai au quotidien.
Et du coup j'en profite, si on veut acheter ton livre, où est-ce qu'on le trouve? Et si on veut te suivre toi, comment est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que c'est LinkedIn?
Pour le public, s'ils veulent suivre au quotidien, c'est LinkedIn. Après, s'ils veulent des textes plus étoffés, c'est clairement ma newsletter, Dans la tête d'un philopreneur. Et le bouquin, il est partout, donc Amazon. Alors les libraires vont pas aimer, mais Amazon, c'est quand même un peu, un point de vue business, c'est quand même plus smart pour moi. Ça m'arrange plus Amazon. Sinon, il y a la Fnac, il est dans toutes les Fnac ou sur le site de la Fnac et en librairie. Okay. Et il y a un site pas mal, ça, pour quand même faire de la pub pour les librairies, librairie indépendante.
Okay.
Et en fait, tu tapes le nom d'un livre et tu vois toutes les librairies dans lesquelles il est disponible.
Okay.
Ça, c'est pas mal.
Et quand tu dis Amazon, c'est plus smart, pourquoi? Parce que toi, auteur, t'as une commission un peu plus élevée.
Non, c'est pas pour la commission. Je t'ai dit, on gagne pas d'argent avec un livre, donc c'est pas, on va pas optimiser à.
Parce qu'ils te le poussent plus, peut-être?
En fait, c'est là où t'as quand même le plus de trafic.
Okay.
Les gens regardent, malgré tout, les notes. Toi, c'est un peu le TripAdvisor, tu vois, des bouquins. Tu vas quand même checker un peu les notes des livres. Tu fais plus de ventes sur Amazon qu'en librairie aujourd'hui. C'est une page de vente, en fait, Amazon. Et en fait, quand les gens achètent sur Amazon, si après j'arrive à les convaincre ou s'ils arrivent à émettre une review, c'est un avis vérifié. Du coup, ça a plus de valeur dans l'algo. Enfin, tu vois, en fait, c'est.
Okay.
En gros, c'est con, mais c'est comme si je disais aux gens est-ce que tu préfères envoyer sur YouTube ou Dailymotion, tu vois?
Ouais.
Aujourd'hui, tu renvoies sur YouTube, les gens. Et Amazon, c'est ça.
Trop bien. Merci beaucoup, JC.
Merci, Armand, c'était cool.
C'était cool. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous laisser un petit avis. Si vous êtes là au bout de 2 heures, c'est que vous avez kiffé. Donc, merci beaucoup. Bisous.